Hello there.
Bonjour.
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 Vers l'infini et au-delà.
It's gonna be legendary.
Good to see you too, pup.
Trois fois mille. Je compte même pas jusque là.
This is your king, George the Third.
C'était fun.
Telle est la voix.
Ferme les yeux, respire pour ouvrir ton chakra couronne.
Oh mon Dieu, ce que c'est bon de vivre.
Bienvenue sur Il était un plus, le podcast qui vous emmène par-delà l'écran pour découvrir ou redécouvrir les merveilles de Disney+. Et aujourd'hui, on part à Donaldville, ou Duckburg pour les anglophones, et on consacre cet épisode à la famille Duck. Après un rapide, qui finalement, après préparation de l'épisode, ne sera pas du tout rapide, historique sur cette mythique famille des studios Disney, ainsi qu'une brève présentation de ses membres phares, on va balayer tous les contenus consacrés à nos canards préférés sur Disney+. Et pour ce faire, je retrouve mes comparses Clem et Emily, ainsi que deux chroniqueurs, Céline et Shane. Hello guys!
Salut!
Hello!
Coin coin!
Oh pitié! Il fait déjà des blagues de papa.
Bah, c'est le papa de la famille là, hein.
C'est vrai ça.
Oh là là.
Non, il y a Cédric. Cédric, il est papa depuis longtemps déjà. Mais il n'est pas là.
Alors, avant d'attaquer le vif du sujet, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu votre histoire avec la famille Duck. Est-ce que ce sont des personnages que vous appréciez ou pas? Si oui, d'où vient cet intérêt? Depuis l'enfance, récemment, des parcs, des dessins animés? Enfin, voilà, je vous écoute. Et j'ai envie de commencer par Céline et enchaîner directement avec Clem et vous comprendrez pourquoi.
Ah, ok. Bah écoute, en fait, moi, mon histoire avec la famille Duck, c'est commencé avec la bande à Picsou, DuckTales, en fait, dans les années 80, où je me souviens pas de l'année exacte, hein, quand ça passait au Disney Club. Et j'étais, parce que oui, justement, comme vous savez, moi, j'étais née dans les années 80. Et j'étais jeune, enfin, évidemment, j'étais une enfant et je regardais religieusement, en fait, la bande à Picsou. Toutes les semaines, j'attendais que ça. Et c'est ça qui m'a fait découvrir un peu l'univers aussi des BD Picsou, Picsou Magazine, etc. Et du coup, bah, c'est un petit peu ça qui m'a lancé, mon amour, on va dire, pour la famille Duck. Et puis, après, pour le côté un peu plus fun, mais il n'y a pas vraiment de raison, mes parents me comparaient souvent avec Donald, parce qu'apparemment... j'ai un peu des sautes d'humeur comme Donald. je vous rassure, je me fâche pas aussi facilement quand même. Mais apparemment, je râle assez beaucoup. Donc voilà, les premières fois où on allait à Disneyland de Paris avec mes parents, donc dès les débuts des années 90, en fait, à chaque fois, on m'achetait quelque chose Donald, en fait. C'était voilà, la petite blague un petit peu qui restait. Et voilà.
Et toi, Clem?
Alors moi, c'est bien simple, je n'en ai rien à foutre. La seule chose que je sais faire, c'est que je sais imiter plus ou moins Donald. C'était pas mal, non?
Et
pas
ah, mal. C'est bien, c'est réussi.
Pas mal.
C'est pas mal, c'est pas mal.
Mais alors sinon, honnêtement, que dire? Sinon que je n'ai, pour ainsi dire, jamais regardé des trucs sur Donald, sur Picsou ou Riri, Fifi et Loulou. Ça me passe vraiment à mille au-dessus de la tête. Je n'ai jamais été fan. Il m'a même toujours un peu énervé, ce Donald, pour être honnête. Voilà. Quand il y avait des épisodes avec Donald, parce que j'avais des cassettes avec... tous les épisodes sur plutôt Dingo, Mickey et Donald. Mais quand c'était Donald, en général, je ne regardais pas, quoi. Donc, vraiment, je ne sais pas ce que je fais sur cet épisode parce que je vais clairement être le Grinch. Je n'aime rien, mais vraiment rien de la famille Duck. Vraiment rien. J'ai essayé, hein, mais je n'ai rien aimé.
Et toi, Emily?
J'avais envie de dire pareil que Clem, mais je suis peut-être pas aussi trash. C'est plus une indifférence générale. Enfin, c'est un personnage Disney comme un autre. J'ai jamais regardé la bande à Picsou. J'ai jamais regardé la plupart des séries en fait et des films dont on va parler dans cet épisode. Donc ça m'a fait découvrir des choses et on en reparlera après. Des bonnes surprises et des un peu moins intéressantes. Mais voilà, je suis plus sur un mais qu'une attitude de Grinch pour cet épisode.
Shane?
Ah, moi, je serais dans la team Céline, du coup. Moi, c'était quand j'étais petit, vraiment. La bande à Picsou, c'était avec les Rangers du risque, les deux séries où j'avais des cassettes vidéo qu'on achetait en occasion sur les brocantes et tout, et on essayait d'avoir tous les épisodes, et que je les ai regardés en boucle. Hein. Et aussi, clairement, un héritage aussi de ma maman qui aimait bien les magazines comme la Mickey Parade, Picsou Magazine, le journal de Mickey, etc. Et qui était de la génération qui avait, quand ils étaient petits, le manuel des Castors Junior. Parce que ça existait vraiment pour la génération de nos parents, le vrai manuel des Castors Junior. Et il y avait aussi les recettes de grand-mère Donald. Et donc, elle me les a données quand j'étais petit, quoi. Donc voilà, moi, c'était nettement plus intense, on va dire.
Franchement, c'est mignon. J'aurais aimé avoir une autre relation, enfin une relation comme toi tu as avec Donald. Ça m'aurait sans doute aidé.
Après, je suis plus Team Picsou que Donald.
Ou Picsou, peu importe. Moi, tu sais, c'est les mêmes pour moi. Hein.
Ouh là là.
Pour moi, Picsou, c'est juste Donald en plus vieux. Hein.
Ça va être difficile, cet épisode.
Oh là là, cet épisode va être intéressant quand même. Hein.
Bah, c'est ça qui était l'intérêt de. En fait, on n'a pas fait exprès, mais au final, c'est assez hétéroclite dans nos avis sur la famille, parce que moi c'est encore au milieu, c'est-à-dire que quand j'étais petite, ça m'intéressait pas du tout, je jamais regardé un truc avec Donald, je regardais un petit peu la maison de Mickey et tout, mais c'était vraiment pas ça. Moi j'étais team princesse, vous le savez, donc Donald, Mickey, ses amis, pas ma came. Mais j'ai apprécié Donald en fait en le voyant dans le parc à Disneyland Paris. Je trouvais que le personnage était trop chou. J'adorais le fait qu'on comprenne pas et qu'il soit toujours fâché, qu'il soit toujours embêté par tout le monde. Je trouvais ça trop mignon. Et du coup, j'ai découvert la famille Duck en regardant bah, DuckTales de 2017, le reboot. Parce que du coup, je me suis dit, ah, j'aime bien le personnage de Donald. Ils font un reboot, voilà, sur bah, entre autres sur lui. Je vais regarder. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans cet univers. Et en fait, j'avais jamais rien vu d'autre à part le nouveau DuckTales avant cet épisode. Et donc, j'ai découvert tout ça grâce, on va dire, à cet épisode, ou à cause de cet épisode, je ne sais pas, on va en reparler.
Ça dépendra de quoi.
Ouais. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour et on va pouvoir commencer l'épisode. Ok, eh bien comme j'ai pu le dire tout à l'heure, on va commencer par une historique présentation des personnages. Alors, Shane est notre spécialiste comics, donc il va pouvoir rajouter des petites informations. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la famille Duck, ça constitue principalement l'ascendance de Donald Duck, imaginée par la Walt Disney Company. Elle est alliée à la famille Ecoutoum, fondatrice de Donaldville, par le mariage de la grand-mère Donald avec Joseph Duck, et au clan McPixou par celui de leur fils Rodolphe Duck avec Hortense Picsou, sœur de Balthazar Picsou. Je pense que je vous ai perdu, je me suis perdue moi-même.
Disons qu'il y a beaucoup de ducks et beaucoup de Picsou.
Oh, mais
Oui, c'est
tellement,
ça.
franchement, faut pour savoir qui. Et puis il y a des ducks qui sont pas de la même famille, hein. Donc.
Quoi? Ouais, mais alors là, si on commence comme ça, je suis désolée, mais bon.
Je pense à Daisy Duck et Donald Duck ne sont pas de la même famille et ils ont
Hein.
pourtant le même nom de famille.
Oui.
Heureusement, parce que sinon.
On n'est pas dans Game of Thrones ici, hein.
Mais oui, donc comme Charline l'a dit. Impossible de parler de la famille Duck sans évoquer les comics. Donc, même si l'épisode sera beaucoup forcément tourné vers Disney+, on va peut-être juste commencer par un petit historique du développement, on va dire, de ces personnages, parce que Donald a bien sûr été créé par Walt Disney et son équipe, mais la majorité des personnages ont été développés dans les comics et dans les strips. Donc les strips, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des petites BD en 3 ou 4 cases qu'on trouvait notamment dans les journaux et qu'on pouvait souvent une histoire en quelques cases, mais qui éventuellement pouvait se suivre, etc. Donc on disait forcément c'est en France et en Belgique, c'est surtout dans le journal de Mickey, Mickey Parade et puis Picsou Magazine où on pouvait retrouver ces histoires. Sachant que pour l'anecdote, le journal de Mickey, je pense que la France était le deuxième pays à l'avoir après les États-Unis, bien sûr. Donc, cocorico à vous. Hein. Et donc, au sein même des comics, il y a forcément plein d'auteurs, Mais il y en a vraiment deux qui restent vraiment ceux qu'on associe vraiment à la famille des canards. Le principal, c'est Karl Barks, qui pendant 30 ans va dédier sa vie à développer l'univers des canards. Et d'ailleurs, souvent, il est surnommé l'homme des canards. Il est d'abord engagé par les studios Disney comme dessinateur. Il va ensuite devenir scénariste et il travaille à la Walt Disney Company pendant 7 ans, notamment sur des courts-métrages dans lesquels Donald est le héros. Mais c'est vraiment en 1943 qu'il commence à se lancer vraiment dans les comics. Et c'est là que, comme je dis, pendant 30 ans, il va développer et créer énormément des personnages que nous connaissons aujourd'hui. Ensuite, fin des années 80, un deuxième auteur va en fait se considérer lui-même et après va être considéré par les gens comme son héritier. C'est Don Rosa qui, en tant que fan absolu de Karl Barks, va essayer de en fait mélanger toutes ces histoires et en tirer une chronologie vraisemblable. Parce que Barks, il avait tendance à créer un peu tout n'importe quoi dans tous les sens. Il gardait pas pendant 30 ans, il a fait plein de choses, mais ça se coordonnait pas vraiment. Rosa, en tant que fan, il veut un truc béton, avec un début, une fin, un milieu. Il veut que les personnages aient des relations entre eux, et créer un arbre généalogique qui existe. Et pour ça, il va prendre des décisions, parce qu'en fait, c'était tellement le bordel qu'il va devoir choisir. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment Don Rosa, et lui pendant, il va officier de 87 à 2007 et il va notamment créer son œuvre majeure qui s'appelle La Jeunesse de Picsou et qui est une frise chronologique de l'histoire de Picsou qui intègre en fait toutes les histoires de Barks mais en les mettant dans l'ordre et en ajoutant des éléments que lui-même a inventé. Généralement il y a trois types d'histoires, que ce soit l'un ou l'autre. Il y a vraiment les gags en une page. Il y a les histoires, on va dire, de vie tous les jours en 7-8 pages environ, une dizaine maximum. Et alors vraiment les aventures qui sont en une quarantaine de pages. Il y a souvent quand même trois personnages qui reviennent comme héros, soit Donald, soit Riri Fifi Loulou, soit Picsou. Généralement, Donald, les blagues, Riri, Fifi, Loulou, le côté sérieux du moins après les Castors Junior, on résout des problèmes. Et puis Picsou, c'est l'aventure, quoi. Vraiment la recherche, l'archéologie, etc. Les voyages. Donc si on met ça dans Il est Tintin Plus, il faut imaginer que nous avons donc Charline qui est Picsou, qui fait les voyages, qui aime bien l'aventure. Émilie, c'est les Castors Junior, il faut résoudre les problèmes, être organisé. Et désolé, Clem, du coup, il reste Donald pour faire les bêtises. Hein. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment l'univers des comics. Et c'est vraiment de ça que DuckTales, donc la bande à Picsou dont on va parler plus tard, s'inspire abondamment. C'est vraiment la source principale. Certains épisodes de la bande à Picsou, c'est vraiment une adaptation pure et dure des comics de Karl Barks.
Alors pour revenir du coup sur les personnages, juste histoire de resituer un petit peu qui est qui pour ceux qui ne connaissent rien du tout à la famille. Donc le premier membre de la famille Duck, c'est Donald Duck, hein, qui a été développé donc entre autres par l'animateur Dick Lundy en 1934. Et sa première apparition au cinéma a eu lieu le 9 juin 1934 sous la forme d'un canard en costume marin, tel qu'on le connaît actuellement, dans le petit court-métrage Une petite poule avisée, et on en reparlera un peu plus tard. Apparaissent ensuite en 1937 donc ses neveux, Riri, Fifi, Loulou ou Oui, Dui et Louis en VO. Je crois qu'ils ont vraiment tous les noms suivant les langues, c'est très drôle. Et donc c'est les neveux de Donald dont il a la charge, qui ont été créés par Ted Osborne et Al Taliaferro pour les studios Disney également. Ils apparaissent dans un des strips hebdomadaires de Donald en octobre 37, qui sera adapté au cinéma sous le titre Les Neveux de Donald en avril 38, dont on parlera également tout à l'heure. Dès 1937, c'est Della Duck, la sœur jumelle de Donald et la mère du coup des triplés, qui va être mentionnée, mais elle n'apparaîtra que très longtemps après, c'est-à-dire en 1994. Et dans les dessins animés, on ne la verra qu'en 2017 dans le remake de la bande à Picsou dont on parlera, ce qui est quand même assez impressionnant parce qu'on a ces trois triplés que personne ne sait d'où ils viennent. On mentionne sa maman une fois, ensuite on la voit vite fait dans un comics et il faut attendre... J'ai pas trop envie de compter, mais de très nombreuses années avant de l'avoir en live action.
Après, ça ira, on a déjà Donald, hein, pas besoin d'avoir sa sœur jumelle. Hein.
Sa sœur jumelle, tu pourrais l'apprécier, Clem, elle parle, on comprend ce qu'elle dit.
Ah. Bon, mais moi, c'est pas tellement que c'est parce qu'on comprend pas ce qu'il dit, c'est juste que je le trouve énervant, c'est tout.
Ah, franchement, dès là, bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard, mais c'est l'aventurière, un peu féministe, un peu sympa. Enfin, vraiment, elle est... je trouve que son personnage, surtout dans la nouvelle série, est bien développé.
C'est genre plus Daisy, quoi.
Non, Daisy, elle est vraiment là pour faire un peu potiche amoureuse de Donald, quoi.
Ah, je sais pas, parce que dans la série, elle est sympa, elle fait pas du tout potiche, ouais. Donc.
Non, là, je la mettrais même un cran au-dessus, tu vois.
Ok. Bon, après, c'est pas ça qui va me faire non plus aimer.
Non,
hein.
Non, je pense pas non plus. Je pense vraiment pas non plus. Mais du coup, justement, tu parlais de Daisy. Bah, chronologiquement, c'est ensuite Daisy qu'on va découvrir. Donc, en 1940, dans le court-métrage L'entreprenant Monsieur Duck, qui est donc l'amoureuse de Donald. Et enfin, Balthazar Picsou, l'oncle de Donald. Donc, celui que tu es persuadé que c'est Donald en plus vieux. Hein.
En plus vieux et en plus riche.
Ouais. J'avais oublié en fait que son nom c'était Balthazar Picsou et en fait parce qu'évidemment moi comme vous savez maintenant je regarde qu'en VO DuckTales et du coup c'est Scrooge McDuck qui est donc la famille McDuck hein, donc faut bien montrer que c'est bien l'Écosse
ouais.
Enfin qu'il est c'est un clan écossais pardon je vais y arriver mais du coup en fait je me rends compte tu vois comme quoi on oublie vite les choses en fait que du coup en français on l'appelle par son nom de famille Picsou en fait voilà. Alors qu'évidemment, on l'appelle Uncle Scrooge,
ah ouais.
qui vient de
du conte de
Charles Carole. Dickens. Ouais. Voilà, tout à fait. Voilà.
Ouais, mais en fait, tu vois, s'ils avaient laissé en anglais, personne n'aurait compris. Enfin.
Non, mais qui change le prénom, ça me choque pas parce que bah oui, c'est comme You et Dewey Louis. Enfin, c'est voilà, il faut réussir à le dire. C'est quand même normalement. Pour les enfants, à la base, quand même, logiquement. C'est vrai que Scrooge, pour des enfants, ça ne veut pas dire grand-chose, puis c'est difficile à prononcer. C'est juste que je réalise maintenant, en fait, que son nom, c'est Balthazar, en fait, et j'avais complètement zappé. Voilà, c'est tout.
Après, en France, c'est devenu une référence. Quand on dit quelqu'un est radin, on dit c'est un vrai Picsou.
Tout à fait.
Et Balthazar, ça colle bien aussi avec Riri, Fifi, Loulou, qui s'appelle Richard, Firmin et Louis, quoi. On est dans les prénoms... Un peu noble, un peu vieux.
Mmh.
Je découvre tellement de choses dans cet épisode.
Tu ne savais pas qu'ils s'appelaient Richard Firmin et...
Non, pas du tout. Je savais déjà pas qu'on connaissait leur mère. Enfin, je découvre pas mal
Par
de
contre,
trucs.
Par contre, Firmin, c'est vraiment un nom de canard. Hein.
Ouais, grave.
Firmin, ouais, Saturnin, tout ça. Moi, nous, on avait un canard chez moi. Parce que mon frère adorait adopter des animaux, genre des gerbilles, des hamsters, des lapins, des chiens. Il revenait de balade, il se ramenait avec deux chiens, un chat, un canard. Et donc, on avait un canard qui s'appelait Saturnin. Et puis après, on a eu sa femelle, enfin sa fiancée, du coup, qui a eu des petits bébés canetons. Mais bon, il y avait des rats, donc ils ont été mangés par les rats. On n'a pas eu l'occasion d'avoir Riri, Fifi et Loulou.
Donc du coup j'en étais à Balthazar Picsou qui lui est apparu dans les comics en 1947 dans Noël sur le Mont Ours et il est très peu apparu au cinéma et à la télévision et il n'a participé qu'à un ou deux courts-métrages entre les années 40 et 70 mais il va tiendra la vedette du court-métrage Picsou Banquier en 67 aux côtés justement de Riri Fifi Loulou avant de devenir le héros de la série La Bande à Picsou dans les années 80 et aussi ensuite dans le remake des années 2010 et c'était principalement dû au fait que Donald on ne le comprenait pas donc ils se sont dit on va mettre Picsou au moins quand il parle on sait ce qu'il dit le pauvre. Et je souhaitais quand même mentionner un dernier personnage, c'est Gontran Bonheur, qui apparaît beaucoup dans la... Enfin, beaucoup, oui, qui apparaît quand même pas mal dans la bande à Picsou, qui est le cousin et le grand rival de Donald, notamment auprès de Daisy, qui lui est apparu en 48 dans Un Paris Ridicule de Karl Barks, et il a été présenté comme voilà, le canard un peu vantard au teint, et ensuite il a été connu surtout pour sa chance légendaire.
Et ben encore un que je ne connais pas.
Bon, lui, c'est pas très grave.
C'est vrai que c'est très comique ça aussi, c'est le, effectivement le rival de Donald. Dès qu'il y a une aventure, c'est... Donald peut faire tout ce qu'il veut, c'est quand même contre un bonheur qui à la fin va gagner. Hein.
Encore un prénom très...
Ouais.
Très luxueux.
Très canard.
Ouais.
Mais je sais pas c'est quoi son nom en anglais. Tu sais, Céline?
Gladstone Gander.
Ah ouais, okay. Ok.
Et en fait, il est représenté souvent en vert ou avec un... Je trouve plus le nom. Un clover en français, excusez-moi. Un trèfle à quatre feuilles, voilà.
Un trèfle, oui, c'est voilà, le côté irlandais. Hein.
Voilà, ouais, c'est ce porte-chance, en hein. fait. Donald, il lui arrive toujours les pires catastrophes, alors que lui, c'est le contraire, voilà.
Ouais, moi, je le trouve un peu insupportable. J'aime pas les gens trop chanceux.
En plus, il est très poche, hein, tu sais, il est toujours représenté avec une canne, il a les cheveux gominés, enfin, les cheveux, les plumes, vous avez compris.
Et il porte bien son prénom Gontran, hein. Désolée pour tous les Gontrans.
On vous aime.
On va pouvoir passer du coup au court-métrage, puisque Donald Duck est apparu dans un grand nombre de courts-métrages, et c'est Céline qui va nous présenter cette petite partie.
Alors, Donald Duck est apparu dans les 128, c'est beaucoup, hein, courts-métrages de la série Donald Duck, produite entre 1934 et 1961. Jusqu'à récemment, il n'y en avait que 29 sur Disney+. Alors, pourquoi jusqu'à récemment? Et en fait, c'est pour l'anniversaire des 100 ans de la Disney Company. La plateforme met progressivement en ligne des courts-métrages classiques. On pourrait se demander pourquoi ils n'étaient pas en vente, parce qu'en effet, je crois que le Disney Vault, comme ils appellent ça, doit être... Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être pour garder des abonnés récurrents, quoi. C'est peut-être ça aussi. Hein.
Ou pour remasteriser peut-être certaines choses aussi, hein. Faut voir si
ils les adaptent peut-être. Oui, voilà, adapter, c'est ça, c'est ce que je me dis. Ils doivent peut-être les adapter pour la qualité des télés de maintenant, en fait. Donc, certains vont être rajoutés. Et il y en a un qui vient juste d'être rajouté. Le cousin de Donald et les neveux de Donald, qui ont été rajoutés le 11 août. Donc, c'est tout frais. Il y a Donald Fermier qui va arriver le 6 octobre, ainsi que Donald Décorateur et Ohé Donald. Ohé. Alors, à savoir que plusieurs courts-métrages ont été nommés aux Oscars, mais un seul sera disponible sur Disney+, dans quelques mois, qui est Donald Fermier. La plupart sont trouvables facilement sur YouTube, par exemple. Alors, les désignations comme meilleur court-métrage d'animation, il y en a pas mal, hein. Bon Scout, en 1938. Der Führer's Face, en 1942, et ils ont gagné, d'ailleurs. Donald Amoureux, de 1945. Donald chez les Écureuils, en 1947. Donald et les Fourmis, en 1948. C'est très National Geographic, hein, un petit peu, quand même.
On va faire tous
Donald
les
et son arbre de Noël, 1949.
C'était celui-là que je voulais regarder, moi. C'était mon préféré.
Et Rugged Bear, en 1953.
C'est hyper décevant qu'il y ait plein de courts-métrages qui aient été nommés aux Oscars carrément et que ce soit ceux qui décident de ne pas mettre sur la plateforme, quoi.
C'est bizarre, je me dis, ils vont peut-être faire un truc...
Ils n'ont encore rien compris.
Ils vont peut-être faire quelque chose,
Disney+,
tu sais, l'anniversaire de Donald, comme ils avaient fait pour l'anniversaire de Mickey. Je ne sais pas, peut-être que du coup, ils vont dire, ah, on va mettre des...
Ah, peut-être.
Tactique derrière, hein, quand même. S'ils ne sont pas dessus, c'est qu'il y a une raison.
Et est-ce qu'ils existent encore tous? Parce qu'on peut se poser la question aussi, hein, dans des trucs aussi vieux, parfois ça se perd. Hein. Les Anglais sont désespérés de ne pas avoir tous les épisodes de Doctor Who, parce que ça a brûlé à une époque. Bah voilà, hein. Peut-être qu'ils n'existent pas tous, hein, ça arrive.
Ils
ne
vont
pas
mettre Der Führer's Face de toute façon, ça c'est sûr que ça ne sera pas.
Oui, ça
c'est sûr que ça n'ira pas sur Disney+.
Non, c'est sûr.
Ensuite, dans la désignation comme meilleur court-métrage documentaire, nous avons The New Spirit en 1942 et Donald au pays des mathémagiques en 1959.
Ouais, et d'ailleurs, je vous le conseille parce que moi, je l'ai montré à mes élèves. En fait, c'est hyper pédagogique, ça parle des maths, de la musique, enfin, c'est super sympa. Un peu compliqué quand même à comprendre, mais je trouve que c'est un truc à montrer, ça dure genre 30 minutes et c'est dispo sur YouTube.
Tout ce que j'aime, Donald et les mathématiques. Wouh!
Non, maths magique.
C'est des maths magiques, Clem.
C'est d'ailleurs le futur spectacle au Walt Disney Studio.
Mais comment est-ce que des maths peuvent être magiques? C'est impossible. C'est impossible. Oh. Désolée, mais non.
Ah, mais j'avoue, je suis comme Claude. Moi, je suis allergique aux maths. Mais peut-être que justement, ça peut être intéressant si c'est Donald qui me l'explique.
Ouais, mais non, moi, justement, pour moi, si c'est Donald qui me l'explique. Ah.
Mais pour toi, encore moins. Mais.
Alors, l'idée, ce n'est pas de faire une liste exhaustive de tous les courts-métrages sur Donald, parce que sinon, il nous faudrait un épisode de plus de 5 heures. Et Clem, elle adorerait en plus. Mais chaque chroniqueur va vous en présenter un qui est présent sur Disney+.
Ou pas, merci Émilie.
Ça va, tout le monde a YouTube, hein, franchement.
Donc, on va faire ça tout de suite. Alors, ce n'est pas poli, mais je vais commencer. Donc, en fait, moi, j'en ai deux que j'aime beaucoup sur Disney+. Il y en a un qui s'appelle All in a Nutshell, qui est avec Tic et Tac, en fait. Et donc, j'aime beaucoup parce que j'aime bien Tic et Tac. La relation Tic et Tac avec Donald, c'est juste... Ils sont pénibles, en fait. Donc, j'aime beaucoup. Et l'autre, qui est celui que je vais vous présenter, donc, qui s'appelle Trick or Treat. En français, c'est Donald et la sorcière. Avec, justement, Riri, Fifi et Loulou. Et il date de 1952. Et c'est un épisode qui se passe à Halloween. Donc, c'est aussi pour ça que c'est un de mes préférés, parce que la saison d'Halloween est ma saison préférée. Donc, une vraie sorcière, voyant Riri, Fifi et Loulou alors déguisés et se faire humilier et arroser par Donald lors de leur quête de bonbons, décide de leur venir en aide afin de rendre à Donald la monnaie de sa pièce. Donc c'est très drôle, forcément. Enfin, vous vous en doutez. Il se passe pas mal de choses. Et en plus, Riri, Fifi, Loulou, ils sont super mignons dans leur costume d'Halloween.
Alors pour info, il est en Angleterre, mais il n'est pas en France. Donc peut-être qu'il est en Belgique aussi.
Il est en Belgique, moi je l'ai regardé.
Ah ben, tu vois, je ne m'attendais pas à ce que des courts-métrages Disney ne soient pas disponibles dans tous les pays, en fait, tu vois. Parce que là, il n'y a pas de chronologie des médias quand même. Hein.
Non, mais c'est... des fois, il y a des trucs qu'il ne faut pas chercher. Hein. C'était comme, je ne sais plus, c'était un documentaire sur Lin-Manuel Miranda ou... qui a été en... Sur...
Jingle.
Bien vu.
Hi, I'm Lin-Manuel Miranda.
Bref, Et donc, on avait constaté qu'il était sur Disney Plus français, mais qu'il n'était pas sur le Disney Plus belge, tu vois, par exemple. Donc, pareil, il n'y a aucun intérêt. Il n'est même pas français, le documentaire. Il est américain. Enfin, il y a des choses comme ça qui ne sont pas sur d'un côté ou de l'autre, et on ne sait pas pourquoi.
Surtout des choses qui appartiennent à Disney, enfin, pur et dur, quoi. Donc, c'est ça que je suis étonnée. Bon.
Mais j'ai remarqué aussi, en préparant l'épisode, qu'il y a plein de... que ce soit des courts-métrages ou des séries, où les langues et les sous-titres... Mais ça varie drastiquement. Hein. Certains, il n'y avait que la langue en français, mais il n'y avait pas de sous-titres. Donc c'est vraiment très variable d'un épisode à l'autre.
Hein. Parenthèse là-dessus, justement, en fait, j'ai des amis qui ont voulu regarder, je ne sais plus si c'était Aladdin ou Le Roi Lion, je crois que c'est Aladdin, ici au UK, et en fait, la langue française, c'est québécois. On n'a pas de français.
Ah, quelle horreur!
Ouais. Ça devait être dur.
Bah, ils ont pas... Non, du coup, ils ont mis en anglais. Ils ont dit ça. Ils ont mis en anglais, sous-titres anglais, pour parce que c'est pas grave, mais apparemment c'est insupportable. Enfin, parce qu'ils ont l'habitude. Attention, si on a des amis québécois, je ne dis pas que le québécois était insupportable. Je dis juste que quand on est habitué à la version française et qu'on nous met la version québécoise, c'est pas du tout la même chose.
Oui, voilà. Surtout qu'en plus, les Québécois, clair. Ils ont une façon de prononcer certains mots ou quoi, avec un accent qui n'est pas le même que quand c'est des doubleurs francophones, donc. Enfin, français plutôt.
Oui, et puis quand c'est un acteur que tu connais et que tu lui mets un accent. Tu vois, j'ai regardé un film la dernière fois avec Céline Dion et il lui avait enlevé son accent. Oui. Elle avait pas d'accent. Et du coup, ça
c'est pas
bizarre,
possible.
Quoi,
ça.
Là, mais... C'est pas possible, ça fait partie de ta... Enfin, ton timbre de voix fait partie de ta personne.
Surtout Céline Dion, en plus, quand même.
Oui, en plus. J'ai même pas compris pourquoi elle avait pas fait son propre
doublage. C'est comme Margot Robbie sans la voix de Dorothée Pousseau, c'est pas possible.
Exactement, il y a des acteurs comme ça. Ou Bruce Willis, la voix, c'est Patrick Poivet, je crois. C'est pareil, tu peux pas... Tu connais avec. Bref, on digresse.
On va fermer la parenthèse. Clem, je crois que tu as aussi choisi un épisode.
En effet. Alors moi, j'ai choisi Bon pour le modèle réduit, Out of Scale. Il est sorti en 1951. Alors, le pitch, c'est que Donald a installé un parcours de chemin de fer miniature dans son jardin et qu'il s'amuse comme un enfant en le conduisant. Toutefois, trouvant l'arbre de tic et tac en plein milieu de son parcours et qu'il est hors d'échelle, il le déterre et il le remplace par un arbre miniature. Et donc, il chasse ainsi les deux Tamia de leurs abris. Et donc, ils se réfugient tous les deux hors de leur abri et ils vont se réfugier dans le village miniature que Donald a mis en place pour son chemin de fer. Et alors, ensuite, va s'en suivre des chamailleries entre le canard et les rongeurs jusqu'à la résolution finale. Résolution finale. Excusez-moi. Alors, c'est évidemment une référence à la passion de Walt pour les trains, qui avait lui-même, à partir de 1949, un chemin de fer miniature dans son jardin, qu'il conduisait à la manière de Donald, on le sait tous. Et si vous avez déjà vu le documentaire, je reviens plus sur le nom maintenant.
Imagineering Story.
Voilà, merci. Vous le savez aussi. Alors moi, j'adore le fait que ça fasse référence à ça. Et j'aime particulièrement la référence. Pourquoi ? Parce que mon grand-père était cheminot. Le père de mon grand-père était garde-barrière. Donc, leur maison, au bout du jardin, il y avait le chemin de fer qui passait au bout du jardin. Et mon grand-père devait aller... Enfin, mon arrière-grand-père, du coup, devait aller soulever la barrière pour les trains. Donc, les trains, c'est un truc familial. Mon grand-père avait lui-même un circuit de train miniature qui est dans le grenier. Donc, c'est vraiment... c'est une histoire vraiment familiale, les trains. Donc j'aime bien les trains. Et j'aime bien aussi le fait qu'il y ait un épisode, enfin que ce soit un épisode avec Tic et Tac, parce que je les aime bien. C'est en général les épisodes que je préfère, parce qu'ils font un peu chier Donald, et du coup ça me fait rire, parce qu'ils se disputent avec eux, et voilà.
C'est méchant quand même.
C'est plus digeste quand Tic et Tac sont là.
J'en avais vu un aussi que j'avais bien aimé avec Tic et Tac, où Donald, il casse leur arbre, où ils vivent dedans.
Ah oui, je l'ai vu aussi celui-là. Il est sympa.
Ouais, c'était mignon.
Et dans l'arbre de Noël, il me semble qu'il y a aussi Tic et Tac.
Oui.
Ouais, peut-être, je ne m'en rappelle plus.
Et que Tic et Tac se réfugient dans l'arbre de Noël de Donald, à la fin. Et ils sont tous les deux contre une boule de Noël et tout, et il y a toutes les petites lumières qui clignotent et tout. Et parce que c'était Noël, donc c'était celui-là que je voulais regarder, mais bon, il n'était pas sous Disney+. Donc, c'est pas grave. Les trains, ça me va aussi.
et toi, Charline, qu'est-ce que tu nous as choisi ?
Eh ben moi j'ai choisi Une petite poule à viser, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le court-métrage où Donald est apparu pour la toute première fois, et c'est un court-métrage d'animation de la série Silly Symphonies, et donc qui est sorti au cinéma le 9 juin 1934. L'histoire elle est inspirée du conte La petite poule rousse, où une maman poule et ses poussins recherchent de l'aide pour planter un champ de maïs, et on a les deux voisins qui sont pas très gentils, enfin surtout flemmards, donc on a le cochon Pierre le cochon et le canard Donald Duck, à qui la petite poule va demander de l'aide et qui va leur dire à chaque fois non, j'ai trop mal au ventre, je peux pas faire. Et voilà, et donc j'ai beaucoup beaucoup aimé ce court-métrage en fait, que j'ai découvert il y a vraiment quelques jours, hein. Donc c'était vraiment l'occasion pour l'épisode, et ça a été un beau petit coup de cœur, parce que en fait tout le long de la chanson, enfin tout le long justement de l'épisode, il y a une chanson hyper mignonne sur la poule qui demande du coup venez m'aider à planter mon maïs, et elle parle en chantant, et c'est hyper sympa, ça fait fortement penser aux trois petits cochons. C'est qui a peur du grand méchant loup ? Et bah c'est le même style de chanson, tu vois, qui reste en tête et tout, où elle demande de l'aide, et on l'a vraiment tout le long. Et c'est hyper mignon, il y a une petite morale sympa à la fin. C'est plutôt cool. Ce qui est drôle aussi, c'est que Donald, il a sa tête des débuts. Donc en fait, on le reconnaît pas du tout par rapport à maintenant. Il est hyper fin, il ressemble vraiment beaucoup plus à un canard. Donc c'est assez marrant à voir. Et pour la petite anecdote, ce conte, il n'a pas inspiré que les studios Disney, mais il a également inspiré Ubiworks, que vous connaissez sans doute, qui travaillait pour Disney et qui venait de quitter les studios. Et lui aussi est en train de faire son court-métrage sur le même thème. Et en fait, les deux sorties ont coïncidé. Et du coup, il a été dit qu'en fait, ils ont rajouté Donald Duck pour justement se différencier et s'éloigner un peu plus du conte original, quoi. Voilà.
Ben merci, Charline. Alors, Émilie, qu'est-ce que tu as choisi ?
Eh ben, j'ai choisi un court-métrage qui n'est pas sur Disney+, parce que j'ai mal lu les consignes au moment de préparer l'épisode. Mais c'est pas grave, je me rattrape parce qu'après tout, tout le monde a YouTube. Donc vous irez voir ce YouTube. Non, j'ai choisi un court-métrage pour son intérêt historique. J'ai regardé The Führer's Face. Et j'ai dû expliquer pour l'anecdote à mon copain après pourquoi j'avais Führer dans mon historique de recherche YouTube. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était intéressant pour le contexte. Parce que c'est le genre... Allez, je trouve dans une ère où Disney a tendance à vouloir effacer un peu tout ce qu'ils ont fait dans le passé qui n'est pas très politiquement correct. Je trouvais ça intéressant. Donc c'est un court-métrage, vous l'aurez compris au titre, qui est sorti en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, et qui est clairement un court-métrage de propagande, hein, qui a été fait par les studios Disney, qui a gagné un Oscar en 1943, pour Best Animated Subject, je sais pas trop comment on pourrait traduire ça, c'est pas vraiment, enfin c'est meilleure production animée peut-être, je pense.
Non, meilleur personnage animé à mon avis, c'est le personnage, Subject.
Ah, possible, oui, possible. Bah, ils auraient dit character pour moi, mais bon. Et donc dans ce court-métrage, on suit Donald qui est transporté en Allemagne nazie et qui découvre les conditions de vie de l'Allemagne nazie. Et c'est évidemment un court-métrage de propagande puisqu'on voit que Donald est très malheureux là-bas, puisqu'il a à peine de quoi manger, il doit travailler à l'usine à peu près 48 heures par jour pour fabriquer des munitions, doit saluer les photos d'Hitler à chaque fois qu'il croise une photo d'Hitler. Donc voilà, on voit qu'il est très malheureux et à la fin, il se réveille de ce mauvais rêve et c'est très cliché. Il est tout content parce qu'il se réveille dans sa chambre où il y a un drapeau américain et une mini statue de la liberté et il dit « Oh, qu'est-ce que je suis heureux !» d'être un citoyen américain et d'être libre. C'est inimaginable pour le public d'aujourd'hui, mais c'est très intéressant de regarder avec l'œil d'aujourd'hui. On voit vraiment... Allez, je trouve ça intéressant de voir que Disney a participé à la propagande de guerre à l'époque. C'est clairement dirigé vers les enfants comme court-métrage, c'est très goofy, c'est très cartoon. Et c'est des trucs inimaginables aujourd'hui. Quand on voit dans la chambre de Donald qu'il y a des croix gammées sur tous les murs, lui-même, on le voit en uniforme en train de faire le salut nazi, on ne pourrait pas faire ça aujourd'hui, quoi. Donc voilà, c'est disponible sur YouTube malgré tout. Et alors, là, il y a une petite chanson dedans qui est chantée par les Allemands, qui s'appelle Der Führer's Face, chantée par Spike Jonze, qui est, je pense, un chanteur américain, a eu beaucoup de succès apparemment à l'époque. En fait, c'est une chanson tout à fait cynique, hein, qui dit qu'on dit Heil à tout ce que dit le Führer, etc. Et ça reste en tête.
Alors, Shane, qu'est-ce que tu nous as choisi, toi ?
Donc moi, j'ai choisi donc les neveux de Donald, on en a déjà parlé un peu au début de l'épisode, et qui est donc sorti en 1938 et qui adapte le strip dans lequel Riri, Fifi et Loulou apparaissent pour la première fois. Donc c'est en fait Donald qui reçoit une lettre de sa sœur, qui à l'époque s'appelle Dumbella et non Della, donc ça revient sur ce que je disais là tantôt, que vraiment c'était un peu le boxon là-dedans et qu'il fallait un peu mettre de l'ordre. Et donc, cette Dumbella demande à Donald de s'occuper de ses triplés pendant quelques jours. Débarquent alors donc Riri, Fifi et Loulou, qui en fait sont encore très typés enfants, ont fait des bêtises, ce qui va après petit à petit ne va plus être le cas et seront beaucoup moins dans ce genre-là, ce sera beaucoup plus le côté débrouillard qui sera mis en avant. Et donc ici, c'est vraiment les éléments perturbateurs qui viennent embêter Donald dans sa vie de tous les jours, qui cassent tout dans sa maison, etc. Vraiment, c'est leur prémisse.
Faites des gosses, quoi.
pire, c'est prends les enfants de ta sœur, ce sont même pas les tiens.
C'est pour ça que j'ai arrêté de babysitter les enfants de mon frère.
Ils sont insupportables dans ce court-métrage. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a... Alors, je sais... attends. Lequel est bleu d'habitude, rappelez-moi, parce que tu sais que c'est Dewey en anglais.
C'est Fifi.
C'est Fifi, merci. Oui, c'est Firmin, voilà. Et là, Firmin, en fait, est d'une couleur différente dans le carton.
Oui, à ce moment-là, mais ça a mis très longtemps aussi à être fixé, les couleurs. Et effectivement, dans ce court-métrage-ci, c'est rouge, orange et vert qui sont les couleurs des enfants. Et donc, comme on l'a dit, il vient d'arriver sur la plateforme, donc c'était la bonne occasion de le présenter.
Ok, écoutez, je pense que voilà, on vous a peut-être donné envie de regarder certains courts-métrages ou pas. Mais en tout cas, si c'est le genre de choses qui vous plaisent, comme Céline l'a dit, il y en a déjà 31 actuellement sur Disney+, 29 plus les deux qui sont sortis il y a 2-3 jours. Et il va y en avoir encore plus récemment, enfin encore plus, je crois que c'est 4-5 hein, qui vont arriver, donc... ne nous emballons pas, mais on va pouvoir passer au film.
Oui.
Somos los tres charros, los tres caballeros, y nadie es igual a nosotros. Felices amigos, siempre vamos juntos. Donde va el primero, van siempre los otros. Tres felices cuates que portan zarapes bajo galoneados sombreros. Valientes brillamos como brilla un peso. Nosotros los tres caballeros.
Après ce magnifique extrait des Trois Caballeros, donc on va parler des films, parce que fort de son succès parmi tous ces courts-métrages, Donald va être, dans les années 40, le héros de deux films dont on va parler maintenant. Donc avant vraiment de parler des films, il faudrait quand même remettre dans le contexte, parce que les années 40, c'est vraiment les années de la loose hein, pour Disney. À ce moment-là, il n'y a pas d'argent, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Les caisses qui avaient été remplies par Blanche-Neige sont vides, notamment après avoir construit les studios. Et donc, clairement, il y a un gros problème à ce moment-là pour Disney. Les années 40, bah, c'est aussi la Deuxième Guerre mondiale. Même si les USA ne sont pas encore entrés en guerre au début, les conséquences sont déjà là, parce que, notamment, les films ne sont pas distribués à l'international, du moins pas partout. Ce qui, forcément, bah, impacte sur les revenus. Enfin, en 41, il y a aussi une immense grève dans les studios Disney qui fait que il y a une énorme perte de temps et d'argent, et donc le studio en ressort affaibli. Mais cette bonne nouvelle, à ce moment-là, le département d'État américain dirigé par Nelson Rockefeller sollicite Walt Disney pour représenter les États-Unis en Amérique latine à travers des films. Walt saute sur l'occasion, malgré qu'il n'en a pas du tout envie, pour renflouer les caisses. Mais c'est un moyen qu'il trouve pour assurer des revenus au studio et continuer la production en court-métrage et en long-métrage. Ici, donc, le contrat lui permet de produire 4 à 5 courts-métrages qui finalement en fait, deviendront un film. Walt s'envole donc avec son équipe pour l'Amérique du Sud en août 41 avec pour mission de faire connaître donc, les États-Unis à l'international et en particulier à l'Amérique latine dans le cadre de la Good Neighbor Policy qui vise à lutter contre le nazisme en Amérique du Sud parce qu'en effet à ce moment-là de nombreux immigrés italiens et allemands y propagent des idées fascistes. Et donc les États-Unis forcément n'ont pas envie que ce fascisme se répande. Ça permet à Disney de produire le film Saludos Amigos dans un premier temps, et après sa suite spirituelle, on peut dire Les Trois Caballeros. C'est le début des années 40 pour Disney de sortir de nombreux courts-métrages, de longs-métrages qui sont composés de courts ou de moyens-métrages. Ça va vraiment perdurer pendant toute la décennie, jusqu'à la sortie de Cendrillon en 1950. Parmi ceux-là, il y en a plusieurs qui mettent en scène Donald, bien sûr dans Saludos Amigos et Les Trois Caballeros, mais aussi dans Coquin de Printemps, dont la deuxième partie revisite le conte du haricot magique avec Mickey, Donald et Pluto. Si un jour vous vous êtes demandé pourquoi il y avait un haricot géant à Disneyland Paris, c'est à cause de ce moyen-métrage. Et je passe maintenant la parole à Émilie qui va nous présenter Saludos Amigos.
On va donc parler du film Saludos Amigos, ou Salut les amis, traduit littéralement, qui est le 7e long métrage d'animation et le 6e classique d'animation des studios Disney. Il est sorti en 1942 et c'est un mélange de prises de vue réelles et de séquences d'animation. C'est aussi le plus court des longs métrages de chez Disney puisqu'il ne dure que 42 minutes. Et c'est peut-être pas plus mal, on y reviendra. C'est aussi le premier film Disney qui a été diffusé en Amérique latine avant de l'être aux États-Unis puisque l'intrigue se déroule en Amérique latine. La première du film a donc eu lieu à Rio de Janeiro et a remporté plutôt un bon accueil, ce qui a motivé Walt à faire un autre voyage en Amérique latine pour en faire une suite. Le film a été réalisé par Norman Ferguson, qui a déjà travaillé auparavant sur deux scènes cultes de films d'animation Disney, la séquence de la danse des heures dans Fantasia et celle de la marche des éléphants roses dans Dumbo, a.k.a. Dumbo prend du LSD. On le connaît également pour son travail d'animateur sur de nombreux films, Blanche-Neige, Pinocchio, Cendrillon, Alice, par exemple. Le film a obtenu 3 nominations aux Oscars en 1944, meilleure adaptation pour un film musical, ce qui m'étonne un peu parce que adaptation de quoi ? Je pense pas que ce soit basé sur un livre ou une autre œuvre. Meilleure chanson originale pour Saludos Amigos, et enfin l'Oscar du meilleur son. Au niveau du casting, bon, c'est un dessin animé, hein, mais Donald, donc le personnage principal, est doublé en VO par Clarence Nash et en VF par Sylvain Caruso, qui apparaît en VF à partir de 2003.
Oui, en fait, désolée, c'est moi qui ai pris les notes, j'étais peut-être pas très claire dans mes notes. En fait, au début, en VO et en VF, c'était Clarence Nash
qui le doublait.
Okay. Et à partir de 2003, ils ont fait un deuxième doublage et c'était Sylvain Caruso, qu'on connaît, hein, qui a fait quasiment tout le temps la voix de Donald maintenant, qui du coup, après la...
Ouais, après, pour faire rap, il n'y a pas besoin de parler de français, hein.
Putain, mais tellement, je kiffe quand tu fais Donald.
Merci Clem pour cette imitation, je poursuis. Alors le pitch du film, bon, je trouve que c'est plus un documentaire que réellement un film de fiction, puisque le film montre en fait le voyage en Amérique du Sud d'un groupe d'artistes des studios Disney, dont Walt Disney lui-même. Petit fun fact, on y aperçoit aussi Mary Blair, qu'on connaît pour Alice, Small World, on en a déjà parlé. Et c'est d'ailleurs le seul grand classique où on voit Walt Disney dans le film. Et il est coupé en 4 courts-métrages animés qui sont reliés entre eux par des prises de vue réelles, un peu à la façon d'un documentaire qui montre les artistes qui voyagent dans les différents pays d'Amérique latine, qui s'inspirent, qui font des dessins, etc. Alors, ce film fait partie de ceux qui ont été copés d'un avertissement au début. Ce programme comprend des représentations datées ou un traitement négatif des personnes ou des cultures, etc. Et effectivement, c'est un peu l'Amérique latine vue par les Blancs des années 40, donc c'est pas toujours très subtil et c'est pas toujours très correct. Voilà. Pour ma part, c'était un trou à combler dans ma culture Disney, puisque ça fait partie des classiques d'animation. Après, je ne le reverrai pas spécialement. Il y a pas... Pour moi, c'est pas une histoire de fiction, ce sont... une série de courts-métrages animés qui représentent l'Amérique latine, qui nous donne de belles choses à voir, et plus les prises de vue réelles, mais j'ai eu un peu un sentiment de pas assez abouti, parce que soit, avec nos yeux d'aujourd'hui, hein, soit on aimerait voir un documentaire sur vraiment comment s'est passé ce voyage, et ça pourrait être super intéressant, soit on veut voir un film animé, ou alors des courts-métrages animés, mais un peu plus en stand-alone. Donc je trouve que ça a pas vraiment résisté à l'épreuve du temps, celui-là. Voilà, les images d'époque sont intéressantes. La partie dessin animé, je trouve très chouette cet équilibre entre éducation et divertissement, parce qu'on sent le côté où ils veulent, voilà, montrer d'autres cultures et comment vivent les gens là-bas, avec beaucoup de maladresse parfois, mais il y a une volonté d'éduquer, et en même temps, ben, il y a le côté cartoon et très divertissement. J'ai bien aimé le dernier court-métrage, c'est Aquarela do Brasil, qui montre ben, le Brésil, avec beaucoup de bonnes idées, ça montre la nature, c'est très coloré, j'ai trouvé ça... assez chouette, mais dans l'ensemble, oui, je vais être honnête, c'est pas un classique Disney que je vais revoir. Et alors, parce qu'on parlait de Mary Blair tout à l'heure, ça m'a rappelé une petite anecdote très chouette, c'est... En fait, elle avait quitté Disney un peu de temps auparavant parce qu'elle voulait se consacrer à sa passion pour les beaux-arts, et elle a décidé de revenir chez Disney quand elle a entendu justement qu'il y avait ce voyage en Amérique latine. Et pas dénuée de culot, Mary Blair est revenue en disant « Bon, tu me reprends parce que j'aimerais quand même bien faire ce voyage. » Ce qui a marché.
Bah, faut imaginer qu'à l'époque c'était compliqué, hein, pour les artistes de voyager, pour s'inspirer, hein. C'était pas comme maintenant où tu trouves tout sur internet. Quand t'as besoin d'inspiration, les voyages pour l'art, c'était quelque chose de prisé, hein. Ça m'est pensé, il y a eu la même chose pour la bande dessinée. Il y a un célèbre voyage où Franquin, Jigé et Maurice, les créateurs de Gaston, Lucky Luke et entre autres, enfin pas que Spirou, mais etc., ont voyagé, enfin un road trip aux États-Unis pour avoir des idées en fait. Hein. C'est un truc qui se faisait à l'époque, hein, où le voyage n'était pas aussi facile que maintenant.
Alors moi personnellement, il m'a plus parlé que les Trois Caballeros. Personnellement, je l'ai vraiment préféré. C'est sans doute parce qu'il y a beaucoup plus de références à l'art dans celui-ci que dans le second. Voilà, le fait qu'on voit les dessins de Mary Blair, etc., et les dessins des autres artistes aussi, je trouve que c'est sympa. Ça m'a vraiment beaucoup plus parlé. Et alors, pour l'anecdote, mon papa est allé en Bolivie et il a logé au bord du lac Titicaca. Et alors, il racontait toujours cette histoire que pour dormir, il devait donc se glisser dans une moustiquaire, évidemment, parce qu'il y avait énormément d'insectes, etc. Et alors, il devait mettre à chaque pied de son lit des verres à whisky. Donc il devait soulever le lit et mettre les pieds du lit dans un verre à whisky avec un fond d'alcool pour assommer les éventuels scorpions ou araignées mortelles qui auraient voulu se glisser dans son lit ou sous les draps, quoi. N'est-ce pas ? Il racontait toujours ça. Donc, par exemple, il disait, ben voilà, avant d'aller se coucher, on buvait 4 verres de whisky, par exemple, ou 4 petits shots, des petits verres à shots, quoi. Et alors, après, on prenait les verres, on gardait un fond et on les mettait à chaque pied du lit pour se protéger des scorpions. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, quand j'ai regardé Saluto Amigos, ça m'a fait penser à ça. Voilà. Et mon père m'avait ramené une super jolie petite paire de boucles d'oreilles avec des signes et une petite pierre précieuse, voilà, venue de Bolivie. Bref, c'était une petite anecdote comme ça, une petite histoire mignonne.
cet épisode, on va connaître tout sur Clem, sa passion pour les trains, les voyages de son papa.
Mon grand-père qui était cheminot. Et sinon, je voulais dire quand même que dans le Saludos les amigos, bon, c'est ça, Saludos amigos, le titre, je ne sais plus maintenant. Voilà, il y a un petit court-métrage avec un petit avion qui s'appelle Pedro, il est trop chou. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon, ce passage-là. J'ai eu un coup de cœur pour ce petit avion.
Ben moi, je vous trouve bien gentil parce que en privé, dans notre discussion, tout le monde disait que quand vous le regardiez, vous vous ennuyiez devant. Alors, je vais pas regarder le premier. Ouais, ça balance grave. Donc, je me suis dit, je vais pas regarder le premier, je vais passer direct au deuxième.
C'est pas mieux.
C'était les 3 Caballeros qui m'ont fait chier. C'était pas celui-là. Après, j'ai regardé les 3 Caballeros avant Saludos Amigos parce que j'avais un meilleur souvenir des 3 Caballeros à cause de mon Chantons Ensemble. Et en fait, j'ai été déçue.
Donc, voilà. En fait, je trouve que Saludos Amigos est mieux construit que les 3 Caballeros.
Ouais.
Il y a vraiment cette histoire du voyage qui lie la chose en... Pour 3 Caballeros, on en parlera, c'est pas forcément le cas.
C'est ça.
Le mélange d'animation et de prise de vue, franchement, il marche bien. Après, on va pas se cacher, ça a quand même fameusement vieilli. C'est pas toujours très passionnant. Moi, ce que je me suis demandé en le regardant, c'est si l'idée de voir l'avion qui passe sur la carte de lieu en lieu, c'était une première à l'époque. Parce que c'est un procédé qu'on a revu dans 20 millions de films après. Hein. Je me suis demandé si c'était le cas, notamment dans les Indiana Jones, par exemple, dès qu'Indiana Jones change de lieu, il y a l'avion ou le bateau, peu importe, qui s'affiche sur une carte. Maintenant, les 4 courts-métrages sont quand même vraiment très... décousus. Ils n'ont pas vraiment beaucoup de liens entre eux. Maintenant, on retrouve certaines choses qu'on retrouvera dans les courts-métrages suivants. Le fait qu'on a dans chaque film de cette époque, à un moment, c'est un véhicule qui est animé, qui a des réactions humaines avec l'avion dont il aime parler. Ça reviendra aussi dans Melody Cocktail avec un bateau, par exemple. Dans le troisième, Dingo Gaucho, ça c'est vraiment le fait que Walt adorait tout ce qui était cow-boy, et ici c'est le Gaucho, c'est le cow-boy de l'Amérique du Sud. Ça aussi, c'est dans tous les courts-métrages, ça revient. Mais ça manque quand même de lion, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est tellement coupé. Heureusement qu'il y a ce voyage, parce que sinon...
Mais les animations sont belles quand même, hein.
Ah oui, et effectivement, là, je suis d'accord avec vous, la quatrième partie, c'est la plus belle. Les peintures faites en direct, enfin qui ont l'air d'être faites en direct, c'est vraiment le meilleur moment, avec après l'apparition de José Carioca. Vu que tout le monde a donné son avis, on va donc passer au film suivant, donc les 3 Caballeros, le 9e long-métrage d'animation, le 7e classique. Il sort en 1944 et il mêle toujours prise de vue réelle et animation. En reprenant vraiment le concept de Saludos Amigos, c'est vraiment une suite spirituelle et pas, enfin, c'est pas vraiment une suite réelle, c'est plutôt dans l'idée de la façon de faire. C'est toujours réalisé par le même réalisateur, donc Norman Ferguson, et c'est un film qui va vraiment bien marcher et qui va surtout entraîner, on va dire, des produits dérivés, du moins l'idée, les trois cabarets, ça va rester dans l'imaginaire collectif. Ça marque le retour au studio Disney de UbiWare, dont Charlie nous a déjà mentionné plus tard, pardon, plus tôt. Donc l'autre créateur de Mickey Mouse qui avait quitté les studios la décennie précédente. C'est notamment grâce à lui qu'on a une superbe synchronisation des mouvements des acteurs et des personnages animés qu'il va perfectionner jusqu'à son chef-d'œuvre Mary Poppins. Donc ce film a aussi permis de prouver qu'il existait un marché en Amérique du Sud et que le mélange d'animation prise de vue réelle marchait vraiment bien et amenait de nombreuses possibilités scénaristiques. Enfin, bah, du coup, Donald y prend encore un peu plus de place dans l'histoire, on le verra plus tard. Il est nommé en 46 deux fois aux Oscars, mais il ne gagnera pas. C'était meilleure musique de film et meilleur son. Pas de changement pour le casting, c'est toujours Clarence Nash en VO et Sylvain Caruso plus tard en VF. Donc l'idée ici du film, c'est plus le voyage, parce que donc ça c'était dans le premier, mais c'est que Donald reçoit pour son anniversaire en fait, une bobine de film sur laquelle il découvre plusieurs histoires de nouveau en rapport avec l'Amérique latine. Au cours de film, il rencontre de nouveau José Carioca et plus loin, un troisième larron, Panchito Pistoles, qui donc lui a plutôt le côté mexicain, là où José Carioca c'était vraiment le brésilien. De nouveau, énormément d'images de ces pays, avec principalement sur le coup de la danse et du chant. Il y a aussi l'avertissement au début du film, comme pour le précédent, c'est quand même quelque chose qui a assez vieilli. Et notamment, sur celui-ci, on parle beaucoup d'allusions sexuelles et notamment le regard que Donald a sur les personnages locaux. Et donc, je disais, c'est un film qui a eu un héritage assez important. Les deux personnages de José Carioca et Panchito vont revenir plusieurs fois, notamment dans des comics. Ils vont avoir droit à leur attraction à Epcot, dans le pavillon mexicain, avec Grand Fiesta Tour starring the Three Caballeros. Et enfin, une série télé qui arrivera en 2018 et on en parlera un peu plus tard.
Ouais, bah moi je c'est du coup c'est celui que j'ai vu entre les deux et je me suis ennuyée à mourir. Voilà, c'est dit. Je suis désolée, je l'ai regardé avec beaucoup d'espoir et en fait, j'ai trouvé ça OK, plutôt beau. Enfin, en tout cas, je salue la technique, on va dire, mais j'ai dû regarder Maman 10 fois alors que le film il dure 1 heure, donc c'est pas normal. Le premier court-métrage, je l'ai trouvé vraiment sans intérêt. Le deuxième, bon, c'était sympa de voir les danses et tout, mais
C'est long aussi,
je trouvais que c'était trop
hein.
long, c'est hyper long et la musique, elle, c'est pas une musique entraînante, il n'y a pas
Et puis en plus,
d'intérêt,
la
c'est pas une chanson,
représentativité, enfin, à nouveau, c'est pas.
ouais,
Tu
alors
vois
laisse
bien que c'est
tomber,
pas.
c'est toujours pas
C'est
ça.
les Américains, à limite, à qui on a mis un petit peu de
Le fond de
maquillage pour
teint.
qu'ils soient plus bronzés, quoi.
Ouais, carrément. Et voilà, donc le seul passage que j'ai bien aimé, c'était le passage chanté par les trois caballeros qu'on a écouté tout à l'heure, que j'ai trouvé sympathique. Mais moi, je ne connaissais pas, donc je l'ai découvert comme ça et j'ai trouvé ça sympa. Je sais que toi, Clem, c'est une autre histoire.
Ah oui, ben oui, moi j'ai été super déçue parce que bon, dans ma cassette Chantons ensemble, il y avait la chanson des Trois Caballeros et c'était justement une Chantons ensemble sur les cow-boys et tout ça. Et t'avais donc cette chanson Les Trois Caballeros et elle était en français et c'était trop trop bien. Et là j'étais trop déçue, je me suis dit ah ça y est le meilleur passage, Les Trois Caballeros arrive et elle n'était pas en français. Alors que j'ai regardé le film en français pour pouvoir avoir la chanson en français. J'étais trop déçue du coup.
Ouais, je sais pas, c'est bizarre, surtout si elle existe,
Oui,
quoi.
elle existe. Et alors au début, ça faisait Nous sommes trois caballeros, nene, des muchachos. Ouais, je sais plus exactement ce que ça disait, mais c'était trop bien. Et
C'est de
là.
nouveau le problème des multiples doublages. Il y a deux, trois
C'est
versions, il n'y en
ça,
a qu'une
ouais.
seule sur Disney+, et tu sais pas c'est pas forcément celle
C'est
dont tu te
ça.
souviens quand tu étais petit, quoi.
C'est ça, exactement. Et donc, déçu. Très déçu. Sinon, globalement, du même avis que Charline, bon, le côté éducatif, je dirais qu'il est sympa, mais c'est trop daté, quoi. C'est parce que la représentativité pas top. Et bah, à nouveau, les dessins animés, c'est à l'ancienne, c'est beau. Donc, c'est quand même... Il y a un petit côté d'émerveillement parce que c'est super bien fait. C'est les couleurs, c'est magnifique, la beauté, etc. Mais voilà, c'est quand même... C'était quand même long et j'ai pas su aller au bout. Voilà.
On est d'accord qu'il y a un problème de représentation. Ceci dit, moi, je me suis quand même fait la réflexion que pour l'époque, je trouve ça génial comme concept. C'est-à-dire qu'ils fassent comme ça... Bon, deux dessins animés, parce qu'il y a eu Salut, Dos Amigos avant, mais... de faire comme ça des dessins animés qui cherchent à mettre en avant des pays étrangers, qui montrent clairement la culture, qui fait entendre différentes langues, etc. aux enfants. Mine de rien, pour l'époque, je trouve que c'est pas mal. Alors ça a été fait avec ses défauts, mais c'est quand même une belle avancée.
Moi, ce qui m'a le plus choqué dans celui-là, c'est que l'histoire se perd en cours de route. Là où dans le premier, il y a vraiment le voyage revient entre chaque court-métrage, ici, au début, t'as vraiment cette histoire de « il reçoit la bobine de film, il le regarde », ça passe complètement à la trappe à la fin, hein. Il y a vraiment, on oublie cette histoire, et ça part dans un délire parfois psychédélique sur certaines images, qui est vraiment étonnant. Hein. Mais non, clairement, à part d'être à moins d'être un grand fan, c'est un film qu'on regarde une fois... Et...
Ouais, pour la
si
culture.
T'as pas le côté nostalgique de l'avoir vu à l'époque ou quand t'étais enfant, tu vas pas le revoir 36 fois derrière. Hein.
Mm. Non, moi je vous rejoins aussi. Hein. Je me suis ennuyée j'étais agacée surtout en fait à la fin. C'est que Panchito Pistoles, au bout d'un moment, c'est too much.
Ouais.
Il est too much. Voilà. Donc, mais bon, j'étais contente de l'avoir vu quand même, comme vous dites, pour la culture. Mais c'est tout.
En fait, c'est marrant que pour un film aussi daté, et du coup, bah voilà, qui a pas du tout fait l'unanimité parmi nous tous, que les personnages soient encore autant présents actuellement, quoi.
Je crois qu'il a marqué à son époque, hein, vraiment. Et les personnages, outre le côté, enfin, visuellement, sont beaux. Le côté des trois caballeros, les couleurs s'harmonisent bien. C'est ça aussi, je pense, qui a marqué.
Et puis c'est trois volatiles. Bon, je sais pas, c'est le côté trois volatiles réunis ensemble, Donald le canard, l'autre un toucan, un perroquet, ouais, et le dernier la poule, ou c'est un coq, c'est ça, c'est un coq.
Ouais.
Non. Bah voilà, c'est le côté trois volatiles différents. Ouais.
Oui, José Carioca, il est joli en plus, comme ça, un perroquet vert, c'est exotique.
Ouais, c'est ça.
Point, je pense.
Et il représente chacun peut-être. Une culture différente, du coup, comme ça, et le fait de les réunir tous les trois ensemble, voilà, je ne sais pas.
Hein. Mais je pense aussi que l'attraction à Epcot a aidé à garder cette réputation des trois caballeros aussi, je pense.
Ouais, sans doute.
Alors qu'elle a une réputation d'être tout le temps en panne. Parce qu'en fait, il y a des animatroniques des trois au début, il me semble, et souvent, il y a toujours un qui ne fonctionne pas. Donc régulièrement, il est remplacé par un panneau en carton, ou alors ils ferment carrément et on passe à côté sans les voir. Tu nous diras la prochaine quand tu iras.
Oui, je vais le voir bientôt, ouais.
Alors maintenant, on va quitter nos amis les trois caballeros pour passer au film La Bande à Picsou, sorti en 1990 ou 1990 pour nos amis les Français. Il s'agit du 37e long-métrage d'animation des studios Disney, et attention, ce n'est pas un classique d'animation des studios Disney. Pourtant, bien sorti au cinéma, il ne rentre pas dans cette catégorie, puisqu'il a été réalisé par une filiale de Walt Disney Television Animation, Disney Toon Studio. Il a été réalisé par les frères jumeaux Gaëtan et Paul Brizzi. Il est sorti donc en 1990, et c'est un hommage au conte des Mille et Une Nuits, ouais, vraiment librement inspiré du conte arabe Aladdin ou La Lampe Merveilleuse. Basé sur la série animée populaire et emblématique La Bande à Picsou, le film devait être un épisode divisé en plusieurs parties. Les studios ont finalement opté pour un long métrage. Il devait donc constituer la conclusion de la série télévisée. Donc le pitch. Dans ce film, Picsou, ses trois neveux et Zaza s'embarquent dans une nouvelle aventure qui les mène jusqu'en Égypte sur la trace d'un fabuleux trésor. Mais le sorcier Merloc, un ennemi redoutable, ne tarde pas à leur mettre des bâtons dans les roues afin de prendre possession d'une lampe magique qui contient un génie. La production a été répartie comme suit. Scénario et conception aux États-Unis, animation en France... Tiens donc, et au Royaume-Uni, puis ancrage en Chine. La série s'est toujours amusée à faire des clins d'œil à la pop culture et le film a reproduit le même schéma. L'influence la plus marquante étant Indiana Jones, due à Gary Crizel, alors président de Disney Television Animation, qui avait une fascination obsessionnelle pour Indiana Jones. Donc, quelques références parmi d'autres. Lors du générique d'ouverture du film, la police de caractère du titre est similaire à celle du film Indiana Jones. Dans le film, quelqu'un ressemblant à Indiana Jones peut être vu brièvement lorsque Picsou visite l'Explorer Club. Des scènes similaires comme des rivières chaotiques, des ponts qui se fracassent, des avions qui s'écrasent dans le désert, etc. etc. Et puis on peut aussi citer Flagada Jones qui est Indiana Jones en fait. Hein. Au total, il a rapporté 18 millions de dollars pour un budget de 20 millions de dollars. Il constitue néanmoins une partie importante de l'histoire de Disney. Il s'agit du dernier film du studio d'animation à utiliser la technique traditionnelle de l'animation à la main et il a ouvert les portes à un certain nombre d'artistes et d'animateurs en exauçant leur souhait de travailler sur un film d'animation Disney. Alors au casting, on a Picsou, Alan Young en VO et Philippe Dumas en VF, Riri, Fifi et Loulou, Rossi Taylor et Martine Régnier en VF. Alors, quels sont vos avis sur ce film ?
Bah moi, ça m'intéresse en fait d'avoir le tien, puisque du coup, c'est un peu le classique, on va dire, de la famille Duck. Et sachant que t'aimais pas du tout la famille au départ, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Allez, je vous donne d'abord mon avis. Je me permets. Alors déjà, il y a un truc que moi, quand j'ai commencé à regarder le truc, ça démarre totalement sans background. Du coup, moi qui n'y connais vraiment rien, j'étais un peu larguée. Je me suis dit, ok, donc on est là, ils sont dans un avion, ils vont je ne sais où. Il n'y a pas d'histoire avant, il n'y a pas d'explication. Donc tu peux pas vraiment t'attacher au personnage parce que ça démarre comme ça. Première chose. Alors ensuite, ils arrivent dans le désert puisque c'est basé sur les mille et une nuits. Hein. Ils arrivent dans le désert. Alors pourquoi les habitants du désert, c'est des rats, des taupes ? C'est pas très clair, mais je trouve que bon, pour la représentativité, c'est pas top. Et alors en plus, ils ont des accents pseudo-arabes. Bonjour, franchement, dégueulasse. Je trouve que par contre les dessins sont très beaux, les couleurs sont vibrantes, ça y a vraiment aucun souci. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi si les habitants du désert ne sont pas des canards, le génie lui, il est un canard. Alors que bon, la lampe on l'a trouvée dans le désert. Donc pourquoi est-ce que ce qui vit dans la lampe n'est pas également un rat, une taupe ou je ne sais quoi, enfin la même créature qui vit dans le désert quoi. C'est pas clair. Alors, il y a un autre truc aussi. Je déteste le méchant Merlock. Je le déteste. Il est détestable et je le déteste. Je ne suis pas fan de toute la partie un peu effrayante. Je trouve ça dégueulasse. Je trouvais que le dessin était dégueulasse. Et je sais pas, c'est vraiment un moment où j'avais envie de le passer parce que je la trouve sans intérêt. Alors, il y a un autre truc que je ne comprends pas. C'est le mélange du génie des mille et une nuits / Pinocchio. Un canard qui se transforme en vrai petit garçon. Pourquoi ? Alors quoi, on fait les génies des mille et une nuits, on fait Aladdin, on fait Pinocchio. Je sais pas, Disney, trouve quelque chose, mais tiens temps à ton scénario. Voilà.
Sachant qu'Aladdin n'est pas sorti à ce moment-là. Hein. Donc, en plus. C'est assez nouveau, hein, du coup. Maintenant, a posteriori, tu as la vision d'Aladdin, mais à ce moment-là, il n'existe pas. Hein. Le dessin animé de Disney, j'entends, hein, bien sûr.
D'accord, oui, oui. Bah alors, du coup, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le choix du canard qui va se transformer en vrai petit garçon, mais qui reste quand même un petit canard. Mais il dit, et maintenant, le génie va devenir un vrai petit garçon, mais qui reste quand même un canard. Donc, bon, bref. Alors, globalement, je n'ai pas aimé. Je pense que vous l'avez compris. Et je comprends pourquoi je n'aimais que le Noël de Mickey avec Picsou quand j'étais petite. Parce qu'en fait, ils me tapent tous un peu globalement sur le système. Heureusement que Zaza est un petit peu mignonne parce que ça sauve le truc, quoi. Et en plus, il jarte hyper rapidement le personnage le plus cool. J'ai nommé Flagada Jones. Voilà, sinon la chanson est toujours aussi catchy.
Ouais, franchement, je suis quasiment d'accord avec tout ce que t'as dit. Moi, j'ai pas du tout aimé. Il y a plein de trucs où je me disais, mais pourquoi ? Je trouvais que ça avait fort mal vieilli et je me suis un peu ennuyée devant aussi.
Moi, je suis vraiment pas d'accord. Après, il y a le côté nostalgie qui joue. Hein, mais moi, c'est un film que... Enfin, je l'ai revu ici il y a quelques jours. Et moi, ça m'a toujours autant plu. Je l'adorais quand j'étais petit. Et j'aime toujours vraiment beaucoup. Après, je comprends hein, ce que vous dites. Hein, on est d'accord que... Enfin, c'est un peu daté les réponses aussi, que certaines représentations. Moi, ce qui m'a le plus choqué, mais c'était dans DuckTales en général, c'est Zaza et les triplés. T'as vraiment les garçons d'un côté, Zada la petite fille de l'autre. Ça, c'est vraiment un truc qui a très mal vieilli, qui est fort cliché. Maintenant, je trouve que c'est quand même un chouette film d'aventure. Maintenant, à voir après avoir vu la série, clairement, comme Clem l'a dit, si t'as pas vu la série avant, pas dire que t'es perdu loin de là, mais t'es moins attaché au personnage. Et même le personnage de Dijon, qui est un peu le faire-valoir du méchant, il était déjà apparu dans la série avant, tandis qu'ici, il tombe un peu comme un cheveu dans la soupe, quoi. Mais bon,
Attends,
globalement.
Dijon, c'est l'espèce de rat là qui...
C'est celui qui dit qu'il
Ouais.
est vraiment le. Aller aux ordres du grand méchant, quoi.
Ok, c'est l'espèce de
Qui
rat
cherche
avec
la
un accent
robe, qui
arabe
cherche la
là.
lampe. Ouais, c'est ça.
Ok. Enfin,
Mais donc, lui, il était
celle-ci,
déjà apparu
ça.
avant, en fait.
Ah, ok. Et il
C'est
avait
pour ça
déjà cet
que.
accent?
Ah, ça, je sais plus. Ça remonte à trop loin.
D'accord, mais ça, je trouve ça. Je n'ai vraiment pas compris. J'étais limite outrée pendant tout le film. Je dis, mais c'est pourquoi? J'ai pas compris.
Si je peux rebondir
Surtout que le
là-dessus
génie, il a pas
d'ailleurs,
d'accent en plus.
ben oui, si je peux rebondir là-dessus d'ailleurs, c'est qu'en fait en VO il n'y a pas d'accent.
Ben
En
voilà.
fait, c'est une décision créative, si je veux dire ça comme ça, de la VF. Mais en VO, ils n'ont pas de faux accents comme ça, qui très clairement, voilà, c'est pas acceptable, je trouve.
Ben
Mais
non.
oui, non, sinon moi je suis plus du côté de Shane, hein, parce qu'en fait. Bah, j'ai grandi avec ce film aussi, donc en fait, il y a ce côté Madeleine de Proust, comme on aime bien dire. Mais oui, là, je l'ai regardé récemment et ça a quand même mal vieilli sur beaucoup de points.
Émilie?
Elle l'a pas vue.
Bon, pas grave.
Je pense que si je l'avais pas vu en 90 quand il est sorti, j'apprécierais pas. Je pense pas.
Mais moi, ce qui m'a vraiment le plus gêné, c'est l'accent. Vraiment, ce qui, je me suis dit, mais enfin, dès le début, je me suis dit, alors là, déjà, ça va m'énerver pendant tout le film, parce que ça n'a aucun intérêt.
Et je me rappelle plus, mais ils préviennent
Non.
il y a le petit message
Non, je
d'avertissement
crois
au début?
pas,
Non,
non.
même pas.
Non, non, non.
Non, ils ont dû faire ça en fonction, en fait, de la VO.
Ouais, à mon avis.
Ben non, parce que dans la VO, il n'y a pas d'accent.
Mais
Bah
justement, oui, non,
justement, c'est
justement,
ils
pour
se
ça qu'il
sont
n'y a pas
dit,
de
en VO, il n'y
message.
a pas de problème, donc on ne met pas le message.
Ah bah oui. C'est là qu'on voit que le doublage français, il y a encore du travail à faire aussi. Hein.
Bah, après, c'est vieux. Hein.
Mais ils auraient pu redoubler.
Mais à voir s'il ne faut pas redoubler toute la série du coup. Hein. Parce que si ce sont les mêmes voix dans la série, t'as une centaine d'épisodes à redoubler avec. Hein.
Bah justement, on va pouvoir enchaîner avec donc les séries et on commence par la série DuckTales qui date de 87.
DuckTales, série télévisée d'animation américaine, donc diffusée entre 1987 et 1990, donc assez courte durée quand même. Elle a été la première série animée de Walt Disney Television Animation, précédant les Rangers du risque ou Rescue Rangers, Super Baloo, Tailspin en anglais et Mister Mask qui est Darkwing Duck en VO. Voilà, c'était la
Qui
limite
sont quatre des
culturelle.
meilleures séries Disney de tous les temps. Hein.
Ben, quand même. Quand même. Alors, donc le pitch de la série, en fait, elle met en scène donc des personnages universels de l'univers. Elle met en scène des personnages de l'univers des canards de Disney, principalement Picsou et donc Riri, Fifi, Loulou, qui sont ses neveux.
Non, qui sont les neveux de Donald, hein.
Qui sont les neveux de Donald, oui, d'ailleurs, pardon, excusez-moi. Et donc, ils parcourent le monde à la recherche de trésors perdus. Lorsqu'ils ne sont pas en quête d'un trésor, les neveux de Donald sont à Canardville, ou Duckburg, entourés de Zaza, Mamie Baba et Flagada Jones et affronte avec ruse des ennemis de leur oncle. Donald est peu présent, contrairement aux comics, car l'équipe avait peur que ses paroles soient trop incompréhensibles. On l'avait mentionné rapidement tout à l'heure. Alors, par contre, si vous n'avez pas encore regardé, va falloir quand même un gros temps de rattrapage, hein, parce que cette série, il n'y a que 3 saisons. Mais la première saison a 63 épisodes. La
Oh mon
deuxième,
Dieu.
ouais, ça fait beaucoup quand même, hein. La deuxième, 30. Et la troisième, je ne sais plus.
La troisième, elle a que 5 épisodes.
Ah, la troisième, elle a que 5 épisodes, d'accord. Ok, donc elle était très courte, la troisième.
Ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait, hein,
C'est
franchement.
bizarre comme répartition de... oui, bon, voilà. Le casting est identique au film, La bande à Picsou et le trésor de la lampe perdue. Alors, le thème du générique, parce qu'il est quand même très connu ce générique, que ce soit en V ou en VF, tout le monde connaît le générique de DuckTales. Et donc, c'est l'œuvre de Marc Muller. C'est un auteur-compositeur de musique pop. Et c'est également lui qui fera la chanson thème des Rangers du Risque. En même temps, ça ressemble un petit peu quand
Un
même.
génie.
Ouais. Petite anecdote, il a été payé un peu plus de 1000 dollars pour écrire ce thème. En français, elle est interprétée par Jean-Claude Corbel et Claude Lombard. Elle reprend la musique du générique américain en adaptant les paroles en français. En tout cas, cette chanson est considérée comme l'une des plus mémorables d'une émission télévisée. Même dans le Time Magazine, son impact durable était mentionné. Mais c'est vrai qu'elle reste quand même en tête, hein.
Ah, elle est trop
Elle
cool, elle
reste
reste
en
en
tête,
tête, mais elle est
quoi.
trop cool.
Alors, il faut savoir qu'en VO, la majorité des titres sont des parodies de titres de films, de pièces de théâtre ou d'expressions anglo-saxonnes. Par exemple, Duck to the Future, pour Back to the Future, je pense que vous en doutez, ou encore Ducky
Excellent.
Horror Picture Show pour le Rocky Horror Picture Show. Alors, je vais enchaîner avec mon avis et je vous donne la parole, mais voilà, comme je disais tout à l'heure. En introduction, cette série, c'était le rendez-vous du Disney Club. Hein, pour moi, c'était voilà à ne pas louper. Le samedi matin, j'étais devant ma télé, réveillée pour regarder la bande à Picsou. Donc, toute mon enfance, j'adorais les histoires d'aventure qu'ils avaient, tous les trésors qu'il fallait découvrir, etc. Alors, j'ai re-regardé récemment. J'ai pris quelques épisodes comme ça au pif, hein, des titres qui m'intéressaient. Voilà. Bah comme le film, ça a mal vieilli. Alors, je ne dis pas que c'est nul, hein, parce que j'aime bien quand même en regarder un de temps en temps comme ça. Mais oui, c'est un petit peu mal vieilli. Surtout quand on a déjà regardé la version 2017. Du coup, mais je ne vais pas spoiler sur la série 2017, parce qu'on en parlera après.
Alors moi je vais aller vite, je l'ai pas vu, hein. J'ai pas regardé.
Same.
Toi non plus, Émilie.
En même temps, il y a 100 épisodes, alors
Ouais,
si
c'est
vous avez...
ça. J'ai pas voulu m'infliger ça non plus. J'aime déjà pas beaucoup Donald, alors bon.
Tu vois pas vraiment Donald, hein, dans
Non,
celle-là, en
justement, il est
fait.
quasiment pas là.
Il
Hein.
est quasiment pas
Mais
là, Donald,
est-ce que
hein.
tu as compris que pour moi, Donald, Picsou, Riri,
Oui, c'est vrai,
Fifilou,
c'est les
c'est la
mêmes,
même
pardon.
chose, c'est la
Oui,
même
c'est vrai.
chose. Les gallinacés, là, c'est la même chose.
Bah moi, je connaissais pas non plus, hein, comme je vous l'avais dit, du coup, comme vous, mais je voulais pas me faire les 100 épisodes. Et je me suis dit, ça se trouve, les premiers sont plus nuls que les derniers. Donc, je savais pas trop quel épisode regarder. Parce que je sais que ça se suit pas, hein, donc je me suis dit, j'ai le choix. Et en fait, il y a un super article sur écranlarge.com. Je mettrai le lien dans la description. Qui donnait les 10 meilleurs épisodes de la série culte. Et bon, eux, ils sont à fond. Hein. Mais alors, ils t'expliquent. Enfin, c'est hyper sympa parce que pour chaque épisode, ils t'expliquent un peu les références et tout. Donc, ça donne un peu du contexte à l'épisode. Ça te le fait un peu plus apprécier. Parce que du coup, bah, vous l'aurez compris, moi, j'ai regardé pas les 10, mais j'en ai regardé 4-5 de ce cité. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Pareil, comme le film, j'ai trouvé que ça avait mal vieilli. Et moi, enfin, ayant connu en fait la famille Duck avec le reboot, bah là ça fait un petit choc quoi de passer de l'un à l'autre. Et j'ai eu vraiment particulièrement du mal avec la voix de Donald, qui est pas la même du coup, et en fait qu'on comprend. Et pour moi, Donald, non, on comprend pas en fait. Il a une voix particulière qu'on comprend pas, et là, dans le premier épisode que je lance, je comprenais tout ce qu'il dit. Et je me suis dit, mais non, c'est pas ça, désolé, ça marche pas. Donc ça m'a vraiment dérangée. Et bah aussi le fait que les neveux soient identiques, qu'ils aient pas de personnalité, quoi, que ce soit un copier-coller les uns des autres, je trouve ça vraiment dommage. Donc bah du coup voilà, je pense que c'est bien pour les enfants. Peut-être que Et encore, je sais pas. Enfin, je veux dire, peut-être que je mettrais mon fils devant. Oui, sûrement. Donc, quoi que je mettrais plutôt devant celui de 2017, en fait, hein, la réflexion. Mais enfin, ça me dérangerait pas qu'il regarde. Je pense qu'un enfant aimerait bien. Ou pour les nostalgiques, mais pour un adulte qui découvre, c'est un peu plus dur quand même. Ou alors, faut avoir toutes les refs, le contexte, des explications, voilà.
Oui, c'est ça. On en revient sur le côté nostalgie. Moi qui l'ai vu quand j'étais petit, vu et revu, c'est ma série préférée avec les Rangers du risque. Les épisodes, je les ai regardés je sais pas combien de fois. Et j'irais même encore à dire que je préfère cette version-ci à la version de 2017. Désolé.
Oh là 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 là,
c'est un scandale.
Pour moi, c'est là qu'on voit tout l'amour de Barks pour les canards qui est retranscrit dans une série. T'as vraiment l'impression d'avoir certains comics qui sont directement adaptés à l'écran. Et aussi pour le côté historique, c'est là qu'on apparaît pour la première fois Zaza et Flagada Jones. Bon, Zaza, je l'ai déjà dit, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même un personnage à ce moment-là qui est rempli de clichés. Flagada Jones, j'ai pas retrouvé l'info, mais j'ai souvenir d'avoir lu qu'en fait ils l'ont créé pour remplacer Donald, justement. Comme ils voulaient pas que Donald soit dedans, ils voulaient un personnage gaffeur pour quand même dans la série. Et c'est comme ça que Flagada Jones est arrivé. Et sinon aussi, Céline l'a cité, mais c'est quand même aussi un univers partagé à l'époque avec Mr. Mask, où Flagada Jones est aussi un des personnages principaux de la série, ou encore le personnage de Robotique. Je sais pas si dans les épisodes que tu as vu, Charline, c'est un personnage qui apparaissait, mais c'est une sorte de personnage un peu inspiré de Robocop, qui apparaît dans les deux séries aussi. Donc c'était quand même pour...
Ouais, bah moi je l'ai vu dans la série de 2017, mais voilà. Je l'ai pas vu dans celle-là.
Mais donc aussi pour l'époque, cet univers partagé entre deux séries, c'est assez drôle. Là où il n'y a aucun lien entre la famille Donald et le personnage principal de Mr. Max, c'est complètement un autre canard, mais assez chouette quand on s'en souvient.
Bah, ce qui est sympa, c'est que ça fait référence à plein de, allez, de trucs culture du cinéma, quoi. Robocop, Indiana Jones, Retour vers le futur, ça c'est sympa, je trouve.
Ouais, complètement.
Bah, c'est très années 80-90, ouais, en fait. Hein. C'est vraiment inspiré tous ces films de la pop culture de ces années-là. Donc,
Bah, donc du coup, ça m'étonne pas que ça vous plaise aussi. Ça, bah, ouais. Moi, c'est parce que je suis totalement passée à côté, qu'on regardait pas ça avec mes frères. Mais je pense que si on avait regardé ça avec mes frères, j'aurais peut-être sans doute pu accrocher, rien, ne serait-ce que pour les références cinéma auxquelles ça fait appel, quoi. Alors, on peut maintenant passer à la série de 1996, Quack en vrac. C'est une série d'animation d'une seule saison de 39 épisodes qui durent chacun 25 minutes. Le pitch, donc chaque épisode met en scène les trois frères Riri, Fifi et Loulou qui sont devenus des adolescents branchés aux allures de skateurs dans des histoires riches en aventures et en rebondissements. Donald, quant à lui, est devenu caméraman pour un journal télévisé et travaille avec sa fiancée Daisy, reporter, journaliste. C'est grâce à cette série que les triplés, précédemment interchangeables, reçoivent leur personnalité et leur voix. En effet, pour la première fois, on a trois interprètes différents pour Riri, Fifi et Loulou. Alors, on ne va pas citer tous les doubleurs VOVF, mais il y a un nom que vous connaissez tous et toutes et il s'agit de Donald Renew qui interprète Loulou. Concernant les personnalités, on a Riri, le beau parleur intrigant, Loulou, l'athlète excentrique, et enfin Fifi, l'intellectuel et le farceur. On retrouve bien ces personnalités-là dans le reboot de DuckTales, dont on va parler juste après. Sinon, en casting, on retrouve Sylvain Caruso pour Donald en VF, mais en VO, c'est Tony Arcelmo qui prend le relais. Alors, je vais donner mon avis directement. Alors, étonnamment, c'est ce qui est le mieux passé, alors que je ne suis pas spécialement fan des séries. Mais c'est ce qui est mieux passé dans tout ce que j'ai regardé pour cet épisode. J'ai trouvé que c'était assez humoristique. Je trouve qu'il y a certaines blagues qui font plutôt preuve d'esprit. Et donc, c'est sympa, ça se laisse regarder. J'aime bien le côté moderne des looks et le fait que Daisy, par exemple, elle soit reporter journaliste avec beaucoup de caractère. On sent le côté 90s, l'émancipation des femmes qui prend vraiment de la place dans la série. Donc, j'aime bien. Et dès que les épisodes tournent autour de Donald, ça me saoule. Mais par contre, j'aime bien le fait que ça tourne plus autour de Riri, Fifi et Loulou. Et c'est vrai qu'ils sont assez sympas les bandes d'adolescents un peu branchés comme ça. Franchement, j'ai trouvé ça assez cool. J'en ai pas regardé 40. Hein. Après, il n'y en a pas 40, on a dit. Mais bon, voilà, vous avez compris le principe. J'ai pas regardé les 39 épisodes. J'en ai regardé moins d'une dizaine. Mais j'ai trouvé ça sympa. Franchement, voilà. Comme quoi, il y a quand même une lumière, une lueur parmi mes avis.
Ben moi, c'est le contraire, Clem. J'ai regardé un épisode et c'est tout parce que j'ai détesté. Je
Merde.
suis franche. Voilà.
Paf, à l'étranger, claque, on passe au
Ah oui, non,
suivant.
mais c'est voilà. C'est un opinion court. J'ai pas. Ouais, non, pas du tout.
Moi, j'avais jamais entendu parler de cette série. C'est en préparant l'épisode que j'ai découvert. J'ai regardé les deux premiers pour avoir une idée. Moi, j'ai trouvé ça sympa, mais ça transpire les années 80.
Oui,
C'est
clairement.
vraiment ultra référentiel aussi avec ces années-là. Les super-héros dans le premier épisode, King Kong dans le deuxième. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai trouvé ça très drôle, mais le dragon dans le deuxième épisode ressemble très fort à Figment,
Oui,
le
clairement.
personnage de Epcot. Donc ça, c'était assez drôle. J'ai bien aimé le changement de personnalité des trois frères. Ça apporte un truc en plus. Maintenant, j'ai pas continué. Je crois pas que je continuerai. Et je crois qu'ils ont continué l'idée de mettre des titres référentiels. Parce que le premier en anglais s'appelle The Real Mighty Ducks. Et je sais pas si Mighty Ducks ça vous évoque quelque chose. Mais c'est quand même aussi un truc culte de Disney. C'était les films qui en français s'appellent Les Petits Champions, si je me trompe pas. Trois films des années 80, 90, je sais plus très
Il y a eu
bien.
un reboot
Il
Oui,
y a eu un,
mais
y a eu une,
qui a
non,
déjà
c'était
quitté
pas une
Disney
reboot, c'était
Plus.
une suite.
Ah, d'accord.
C'était une suite. Et donc, c'est des films des années 80-90, d'enfants qui jouent au hockey. Si vous aimez Dawson, c'est aussi un des premiers films avec Joshua Jackson quand il est encore enfant. Donc, Pessy.
Ah, Joshua Jackson.
Ah voilà, j'attendais ça, je savais que quelqu'un
J'adore
réagirait comme
Pacey. C'est
ça.
le personnage préféré de tout le monde. Dawson, il est insupportable.
Ouais, tout à fait.
On regarde Dawson juste pour Joshua Jackson, enfin juste pour Pacey, c'est tout.
Bah, je crois que certaines personnes maintenant regardent Mighty Ducks juste pour le voir quand il était gamin. parce qu'on le voit, on le voit grandir. Hein. Il y a trois films. Le premier doit avoir 10 ans et puis peut-être même moins, je sais plus. Et c'est un truc qui est vraiment resté dans l'ADN Disney parce que après les films, Disney a carrément racheté une équipe de hockey sur glace pour la renommer les Mighty Ducks. Et donc pendant des années, Disney a été propriétaire d'une équipe de hockey sur glace aux États-Unis. Maintenant, c'est plus le cas, ils ont
Mais
revendu.
de quoi Disney n'a pas été propriétaire en
Voilà,
même
c'est
temps?
ça, on peut se poser la question. Mais donc j'imagine que ça continue comme ça dans les épisodes suivants aussi, après j'ai pas continué. C'est aussi là dans cette série qu'on aperçoit Ludwig van Drake, aussi appelé Donald Dingue, pour son côté scientifique fou. Ce qui est drôle, c'est que ce serait l'un des derniers personnages qui aurait été créé par Walt Disney en 61. Et donc, côté arbre généalogique, ce serait un oncle éloigné de Donald, potentiellement le beau-frère de Picsou. Bah, pour vraiment les puristes. Hein. Mais bon, voilà. Je ne pense pas que je regarderai la suite non plus. Hein.
Moi, j'ai pas vu.
Émilie, t'as pas vu non plus?
Non, moi, je n'ai rien vu jusqu'à la légende des trois caballeros, là, je vais être très honnête. J'ai fait mes devoirs, mais un peu le minimum.
Bah, c'est dommage parce que du coup, t'as raté quand même la meilleure série, le meilleur contenu de la famille Duck, c'est-à-dire DuckTales de 2017. Il n'y a que Shane qui n'est pas d'accord, mais je ne comprendrai pas pourquoi. Donc vous l'aurez compris, 30 ans après la bande à Picsou, la joyeuse troupe revient dans un reboot tout neuf, sur un ton très humoristique, voire auto-parodique complètement assumé. Et moi, pour moi, ça c'est un gros point fort. C'est donc une série télévisée d'animation américaine qui est développée par Matt Youngberg et Francisco Angonés, à l'origine pour Disney XD. Et en fait, la série va être disponible à partir de 2020 sur le catalogue de Disney+. Donc il y a trois saisons de 25 épisodes chacune, et chaque épisode fait 25 minutes à peu près. Donc ça reste encore, voilà, regardable au niveau
Il y a
durée.
quelques courts-métrages en plus aussi.
Ouais, il y a quelques courts-métrages à côté de ça, ouais. Une des forces de la série, c'est sa flopée de personnages, puisqu'elle mélange des personnages issus de l'univers de Karl Barks, mais également de Don Rosa, particulièrement ceux présents dans son arbre généalogique, comme Fergus McPicsou, par exemple. Et de d'autres et celui d'autres personnages, d'autres auteurs moins connus, comme Pop-Up, créé par Dick Kinney et Al Ebarg. Voilà. À ces héros de bande dessinée s'ajoute une gamme de personnages principaux et secondaires issus de la série de 87. Donc on retrouve Zaza, qui est beaucoup moins cliché, qui est beaucoup plus intéressante, et qui a vraiment des vraies interactions avec chacun des triplés séparément et tout, donc c'est beaucoup plus intéressant. Flagada Jones ou Robotique, qui ont été créés spécialement pour la série originelle dont on a parlé. On remarquera également une foule de personnages issus de diverses séries animées des programmes de The Disney Afternoon, donc Mr. Max, Dingo, Tic et Tac, les Rangers du Rix, mais également certains personnages de Super Baloo. Niveau casting, pas de changement pour Donald depuis Quack en Vrac en 96. Par contre, en VO, deux voix phares sont à noter, puisqu'on a l'acteur écossais David Tennant qui interprète le rôle du docteur dans Doctor Who. Et là, il va prêter sa voix à Picsou. Donc, je trouve qu'il est excellent d'ailleurs dans ce rôle-là. Et deuxième raison de regarder la série en VO, puisqu'on a Lin-Manuel Miranda.
Jingle numéro 2.
Hi, I'm Lin-Manuel Miranda.
Donc voilà, Lin-Manuel Miranda, il interprète la voix de Robotique. Et donc le personnage a d'ailleurs été changé en latino-américain pour correspondre à la culture de Lin-Manuel Miranda et par choix de Francisco Angonés qui voulait introduire un super-héros d'origine hispanique. Concernant Riri Fifi Loulou, le comédien français ayant fait le doublage de Quack en Vrac reprennent leur rôle, à l'exception du doubleur de Riri. Et on a toujours Donald Renew, mais par contre, donc il fait Loulou, mais par contre sa voix est méconnaissable puisqu'il a mué entre les deux séries, donc c'est toujours lui, mais une voix différente. Je vais enchaîner rapidement sur mon avis. Moi, j'en avais beaucoup parlé dans un épisode de Popcorn Therapy, il me semble. Moi, pour moi, ça a été une série coup de cœur. C'est ce qui m'a fait aimer, du coup, toute cette famille et qui m'a fait m'intéresser à la famille Duck. Je trouve que cette série, elle est hyper bien écrite. Elle est très, très drôle. Il y a ce côté vraiment très mature avec des épisodes clairement double lecture enfant-adulte. Je pense que j'avais déjà donné cet exemple, mais première chose à laquelle je pense, c'est quand ils vont faire du tourisme sur le mont, alors c'est pas le mont Everest, mais c'est un peu du même style, et en fait ça va dénoncer justement le tourisme de masse avec des stands de nourriture, des stands de tout qui s'installent partout, la pollution, etc. Enfin, il y a chaque épisode, je trouve, a justement cette double lecture, et qui fait que quand tu es un adulte, ça peut... tu le regardes d'un autre œil que juste des gaffes entre canards, quoi. Et il y a chaque épisode a vraiment son histoire, et ensuite il y a une histoire globale qui se suit sur les trois saisons. Et franchement, c'est un beau coup de cœur. J'ai trouvé que c'était très très bien réussi.
Je rejoins Charline totalement. Je suis une grande fan de cette série. Je l'ai déjà regardée deux fois, donc voilà. Le fait que Scrooge soit interprété par David Tennant, c'est génial parce que ben voilà, il a son accent écossais, hein, donc ça marche très très bien. Et puis, comme tu as dit aussi, hein, voilà, que Webby Zaza soit un peu plus développée, parce qu'en fait, elle est encore plus badass en fait que les garçons. Donc, j'aime beaucoup cette version de Zaza. Les aventures sont géniales, voilà, comme tu l'as dit auparavant aussi, toutes les acteurs qui font les voix aussi, il y a quand même il y a une longue liste, et c'est voilà, l'humour, etc. Enfin voilà, je ne vais pas dire plus parce que je vais répéter Charline, j'aime beaucoup.
Après, tu disais que je n'avais pas aimé, c'est pas vraiment vrai. En fait, par deux fois, j'ai commencé la série. Les deux fois, j'ai bien aimé, j'avais envie de continuer, mais sans raison particulière. En fait, je m'arrête à un moment ou un autre. Faute de temps, ou je sais pas, je regardais autre chose, et en fait je n'y reviens pas, donc je me dis pas, c'est peut-être pas assez passionnant pour que j'y revienne, ou du moins en tant qu'adulte maintenant, peut-être moins aussi, je sais pas. Maintenant je suis d'accord avec vous, le côté plus moderne, c'est vraiment bien, le moins de stéréotypes. Maintenant, dans la série là, il y a beaucoup plus Donald que dans la première, et moi je n'aime pas quand je ne comprends pas ce que quelqu'un dit. Je trouve ça, j'ai besoin de comprendre ce qu'il raconte, et même avec les sous-titres parfois c'est compliqué, parce que comme les sous-titres disent pas, enfin comme d'habitude, pas la même chose que le personnage dit en vrai, parce qu'ils raccourcissent ou quoi, en fait ça devient incompréhensible. Et donc voilà, c'est, je sais pas que j'aime pas, c'est que j'ai pas d'affect en fait, peut-être, pour cette série. Moi je reste toujours avec mon côté de la série d'avant, c'était celle que j'adorais, et peut-être qu'un jour j'irai au bout, mais je suis pas sûr, on verra. Peut-être un jour où t'es malade pendant deux semaines et que t'as rien à faire, peut-être, où tu enchaînes les épisodes.
Ouais, c'est ça, tu t'enquilles tout le catalogue de Disney+.
Ouais, alors que moi c'est comme Céline, je sais que quand la série a été mise sur Disney+, Il y avait que la saison 1 qui est sortie, et quand la saison 2 est sortie, je me suis refait la saison 1 et j'ai regardé, j'ai enchaîné avec la saison 2. Et quand la saison 3 est sortie l'année encore après, j'ai enchaîné 1, 2, 3 d'affilée. Enfin, c'est vraiment, je trouve, je suis pas très série, je suis pas très dessin animé hein, de base. Hein. Vraiment, moi, c'est pas du tout mon truc, tu vois, même Arcane, j'ai eu du mal à me lancer dedans, les Star Wars Vision, j'ai toujours pas regardé parce que généralement, le dessin animé, c'est pas ma cam. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment un discours derrière qui est hyper intéressant. Et du coup, c'est pour ça que et l'humour, bien sûr. C'est pour ça que je les ai vraiment enchaînés. Et moi, tu vois, c'est à l'inverse de toi, c'est vraiment, quand j'en regarde un, j'ai envie de continuer, quoi.
Après, de nouveau, 75 épisodes, c'est rien à faire. C'est beaucoup, quoi. Il faut prendre le temps, clairement, de voir tout, quoi.
On va pouvoir passer à la dernière série.
Yes, la dernière série qui est donc La Légende des Trois Caballeros. Série télévisée d'animation américaine qui a été développée par Disney Digital Network et qui est basée donc sur le film Les Trois Caballeros dont on a parlé juste avant. On retrouve donc les trois mêmes personnages principaux, Donald Duck, José Carioca et Panchito Pistoles. Ces noms me tuent, rien que les prénoms sont d'un cliché pas possible, mais soit. Une seule saison donc à cette série de 13 épisodes de 24 minutes. À noter qu'il s'agit de la première série Disney qui a été pensée pour le streaming, donc un peu sur un modèle Netflix, avec les 13 épisodes de la saison qui sont sortis en même temps, et un cliffhanger à la fin de chaque épisode qui donne envie de passer au suivant et de continuer à regarder. Contrairement à d'autres séries Disney où on a des épisodes assez indépendants avec un léger fil conducteur. À noter aussi qu'on y voit les nièces de Daisy, qui s'appellent donc Lily, Lulu et Zizi en français, et April, May et June en anglais, ce que je trouve beaucoup plus mignon.
Ouais, moi aussi. Parce que bon, Lily, Lulu et Zizi...
Bah, Zizi particulièrement, enfin voilà.
Oui, c'est ça, quoi. Puis même Lulu, Lulu, bon, ça fait un peu Lulu, Cucu, Zizi, bon, ça va, quoi.
Allez, ça dérape, on a passé 22h30.
Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Non, mais je trouve que c'est très... bon. C'est très pipi caca tout ça. Hein,
On a aussi toute une série de nouveaux personnages inédits dans cette série, donc qu'on expliquera après avec le pitch. Avec un design au niveau de l'animation très cartoon en 3D et assez proche de ce qui se faisait dans les années 80 et 90. Alors de quoi ça parle ? Donald se retrouve avec un atlas enchanté suite à un héritage qu'il partage avec les deux autres caballeros, et ils sortent de cet atlas enchanté Xandra, la déesse de l'aventure. Et ils vont affronter ensemble des monstres mythiques du monde entier, en passant par les pyramides égyptiennes, le mont Rochemore, etc. Alors, c'est la seule série que j'ai vue dans les séries dont on a parlé aujourd'hui, mais j'ai été plutôt agréablement surprise. Autant les Trois Caballeros, je me suis un peu ennuyée devant le film, on en a déjà parlé. Là, j'ai plutôt bien aimé, j'ai trouvé que l'animation était assez chouette. Il y a un bon équilibre entre des gags très visuels, bah, à la court-métrage de Donald, quoi, hein, mais aussi un humour plutôt intéressant, et on sent que c'est un humour qui est dirigé vers les adultes. Donc que la série est vraiment pensée pour plaire à tous les publics. C'est assez sympa d'avoir une saison qui est plutôt courte, les épisodes se regardent assez vite, hein, c'est la durée d'un épisode de sitcom, mais on a une vraie intrigue qui se tient d'un épisode à un autre, là où sur d'autres séries animées Disney, j'ai l'impression qu'on a plutôt des épisodes indépendants avec un vague fil conducteur entre. Donc j'ai trouvé que c'était un format plutôt sympa, et ça permet aussi d'initier les enfants à différents mythes et légendes, par exemple ils vont voir le Minotaure, ils vont passer par les pyramides d'Égypte, bon bah c'est une chouette introduction à la mythologie, et surtout qu'ils passent par la mythologie de différents pays et de différentes cultures.
J'ai pas vu.
Moi j'ai regardé juste le premier, j'ai trouvé ça sympa, mais sans vraiment, enfin ça m'a pas donné envie de voir la suite, clairement ça du coup n'a aucun intérêt, parce que comme tu l'as dit, si t'as pas vu la suite, bah le premier il sert à rien, c'est faut vraiment avoir la série complète pour avoir l'histoire. L'animation, j'ai pas trouvé ça oufissime non plus, en fait c'est surtout que ça, pour moi ça fait pas le cop pâle par rapport aux autres, en fait surtout bah, par rapport à DuckTales 2017 où t'as une patte graphique hyper assumée, vraiment originale. Ici, je trouve ça rentre dans le moule, en fait. Et ça m'a pas donné envie de continuer la suite.
J'ai regardé les 3-4 premiers épisodes. Je sais plus si c'était 3 ou 4. Donc, en fait, au début, ça m'avait intéressé. Le premier épisode, je le trouvais intéressant. Et je me suis dit, tiens, ça va être sympa. Et en fait, non, je me suis lassée déjà assez rapidement. Pas d'intérêt pour moi.
Bon, bah, Émilie, tu es toute seule là sur ce coup.
C'est pas notre épisode le plus positif.
Non, c'est clair que c'est pas notre épisode le plus positif. Après, je pense que c'était... c'est quand même, on va dire, une famille culte. Donc c'était important, je trouve, en tout cas personnellement, de refaire un peu le point. Moi personnellement, en le préparant, j'ai appris pas mal de choses aussi sur les origines de chacun, etc. Et bon, bah peut-être que voilà, les auditeurs ont un attachement particulier à, comme Céline et Shane, au plus vieux contenu sur la famille. Et là, on découvre les nouveaux, ou peut-être ceux qui ont découvert les nouveaux, voilà, vont avoir du coup une idée de ce qui a été fait avant. Enfin, n'hésitez pas à venir, en tout cas, chers auditeurs, nous le dire sur Instagram, @ilétaitunplus, pour nous dire vous avez été horrible. Moi, la bande à Picsou, vous avez été trop méchants.
Oui, on mettra un sondage aussi sous l'épisode sur Spotify.
Exactement. Donc merci à tous et toutes de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode vous aura plu. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à nous faire un retour sur nos réseaux sociaux, donc sur Instagram ou Twitter, même si je crois que sur Twitter on ne poste pas grand chose.
C'est même plus Twitter, c'est X.
Ah oui.
Non, alors moi je continuerai à dire
ouais, Twitter. Moi pareil.
C'est comme les spéculos, je ne dis pas les biscoffs, je continuerai à dire spéculos. C'est
bien,
bah, heureusement.
T'es une vraie belge, c'est bien.
Ah, c'est belge, c'est
bah oui.
Bien sûr.
Bah, t'as vu commencer.
Je pensais que c'était anglais.
Hein, mais anglais. Charline.
Bah, c'est des petits biscuits secs, quoi. Je trouve que ça va bien avec le thé pour les
des
anglais.
Des biscuits secs.
C'était le dernier épisode de Charline, on la remercie.
C'était donc une insulte.
Là, franchement, ça va pas du tout, Charline.
Déjà, ce sont des biscuits à la cannelle. C'est pas des biscuits secs.
Mais ils ont secs quand même.
Oh non.
Elle a quand même réussi en une seule phrase à vexer les Belges et les Anglais en même temps. J'applaudis.
C'est
Charline, merci, c'était ton dernier épisode. Bisous.
Moi, je trouve qu'ils ont rien à voir avec les biscuits. C'est quand même gras, hein, je trouve.
Bref, donc du coup, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux @ilétaitunplus. On pourra même parler cuisine.
Oui, on parle de tout sur notre compte Insta.
Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour Halloween. Et alors, pour la petite anecdote, c'est marrant puisqu'on a changé d'idée en cours d'épisode, en cours d'enregistrement sur l'épisode du mois prochain. Et donc, on va se consacrer à un film cultissime que certains n'ont toujours pas vu, enfin que certaines n'ont toujours pas vu. Donc, ce sera vraiment l'occasion voilà, de le faire découvrir à certains membres de la team. Et il s'agit du Rocky Horror Picture Show. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce film, avoir nos avis, nos analyses des personnages, des thèmes abordés, pourquoi ça a été un échec commercial et toutes les influences qu'il a eues dans dans la société actuelle, n'hésitez pas à écouter l'épisode du mois prochain. Et donc si vous l'avez vu et que vous souhaitez qu'on donne votre avis dans notre épisode, à nous écrire également pour nous dire ce que vous avez pensé de ce film cultissime. Et venir disputer Émilie qu'il n'a toujours pas vu alors que c'est une fan des comédies musicales.
Oui, mais ça va, je suis jeune.
Ah bon, cette excuse-là, ça commence vraiment à m'énerver. Hein. Ça suffit maintenant. Hein.
Là, c'est Clem, la prof, qui a parlé.
Tu arrêtes hein, maintenant.
C'est ça.
Non, mais je suis jeune, donc j'ai jamais vu un film culte, ok. Oh, il y en a marre.
Heureusement
hein.
Que vous êtes là pour faire ma culture, hein, quand même.
Ouais, ouais. T'es jeune. T'es pas si jeune que ça, d'abord. Hein.
Oh.
T'as le droit de jouer au casino aux États-Unis.
Mm-hmm.
Ah bah donc t'es pas si jeune que ça. Voilà.
Bonjour, je crois que c'est le moment de vous dire à plus sur Disney+.
Salut.
Ciao.
Bye.
Salut.
I only hope that we never lose sight of one thing that was all started by a mountain.